Le débat départemental 2015, c'est sur fidélité.
Un débat animé et présenté par Anthony Torzec.
Bonjour à toutes et à tous. Les deux dimanches à venir, vous êtes appelés aux urnes pour les élections départementales. En Loire-Atlantique, 62 conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans. C'est eux qui voteront des budgets qui concernent votre vie quotidienne, la construction des collèges publics, de nouvelles routes, les transports par car, l'aide aux personnes âgées handicapées ou encore l'insertion des demandeurs d'emploi. Nous avons 5 leaders politiques départementaux à nos côtés. Une seule chose nous intéresse, leurs propositions. Pour la Loire-Atlantique. Jusqu'à 10h, ils répondront à mes questions et débattront. Et puis ensuite, de 10h à 10h30, ils seront à votre écoute au 02 40 69 27 27. J-4 avant le premier tour des élections départementales. Alors pour vous aider à faire votre choix dans l'isoloir, nous avons invité 5 leaders politiques de Loire-Atlantique. Ils représentent les grandes familles politiques présentes sur l'ensemble des cantons du département, en tout cas une grande majorité de ces cantons. Nous n'avons pas pu évidemment inviter tous les partis ou mouvements présents dans ces élections. Dans notre studio, Philippe Grosvalet, bonjour. Vous êtes bonjour. Le président actuel du Conseil Général de Loire-Atlantique et vous représentez le Parti Socialiste. Gatien Meunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour Démocratie 44, la droite, est-ce qu'on peut résumer comme ça ? L'UMP, UDI ?
Alors la droite et le centre, réunis.
Voilà, et puis avec nous également Gauthier Boucher, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le Front National, c'est Jean-Claude Blanchard qui devait être présent ici aujourd'hui, qui d'ailleurs nous a été conseillé par le Front National, car tous les partis politiques, on a posé la question quelles pourraient être les têtes des futurs groupes au Conseil départemental, et on nous avait donc proposé Jean-Claude Blanchard, qui n'a pas pu être présent ce matin avec nous. Vous représentez donc le Front National. Avec nous aussi, Aymeric Cesseau, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez le Parti Communiste. Et Emmanuel Bouchot, bonjour.
Bonjour.
D'Europe Écologie Les Verts. Madame, messieurs, deux règles, si vous le voulez bien, pour ce débat. D'abord, le respect de la parole de chacun pour que l'ensemble des auditeurs et auditrices puissent comprendre et connaître vos propositions. Et puis, un discours, si vous le voulez bien, direct et sans langue de bois, très pratique sur les propositions, parce que je crois que ce que les auditeurs et auditrices attendent aujourd'hui, c'est du concret pour leur vie quotidienne. Vos temps de parole sont chronométrés pour tendre vers l'équité, et donc je pourrais donner un peu plus la parole à l'un ou à l'autre si vous l'avez trop pris au début du débat. 4 parties à ce débat, l'aide sociale et l'emploi, l'éducation, les personnes âgées et handicapées et l'aménagement du territoire. C'est un choix que nous avons fait. Évidemment, il y a d'autres compétences du conseil départemental, mais ce sont les grands budgets que nous avons là avec le département. Mais d'abord, une question à vous 5, si vous le voulez. Quel regard portez-vous sur la réforme du Conseil Général ? Car vous le savez, après donc ces élections, ce ne sera pas le Conseil Général, mais le Conseil Départemental. On n'en sait pas beaucoup plus d'ailleurs sur les compétences ni sur les financements. Mais je vous demanderai, s'il vous plaît, très rapidement, hein, pas plus d'une minute chacun, que pensez-vous de cette réforme ? Philippe Grosvalet.
Quelle réforme ? Parce qu'il y en a plusieurs. La réforme des collectivités locales se fait en 3 temps. Il y a une loi qui a été votée qui a consacré les métropoles. Une seconde qui a redécoupé les régions. Vous le savez, je regrette que la nôtre n'ait pas été comprise dans un ensemble plus large entre la Bretagne et les pays de la Loire. Et puis enfin, cette loi dite loi nôtre qui revoit les compétences entre notamment les régions et les départements, qui est quasiment aboutie puisque en première lecture et au Sénat et après la première lecture à l'Assemblée nationale, il semble aujourd'hui que les départements conserveraient les collèges, c'est important, les routes, et que les régions aient la compétence notamment des transports. Voilà.
Gatien Meunier, sur cette réforme des collectivités, du Conseil Général en particulier.
Moi, pour ma part, j'observe que nous sommes aujourd'hui à 4 jours du premier tour et que nous ne connaissons pas définitivement les compétences, même si effectivement on évoque le maintien des collèges, des routes et bien sûr tout le volet social. Il y a quand même eu un aller-retour et entre le Sénat, un détricotage par l'Assemblée nationale, on en redébat et puis il est certain que ce texte passera devant le Conseil constitutionnel et que nous ne connaîtrons pas définitivement les compétences avant l'été. C'est préoccupant pour les élus qui ne savent pas, bien sûr, aujourd'hui de quoi sera fait demain. C'est préoccupant pour les services qui ne savent pas dans quel cadre ils devront intervenir. Et puis c'est aussi préoccupant pour les bénéficiaires des aides de notre collectivité.
Aymeric Cesseau pour le Parti communiste.
Bien d'abord, je crois qu'on peut adresser un carton rouge au gouvernement sur l'impréparation de cette réforme territoriale très brutale qui est venue après les municipales. On n'a jamais connu ces conditions politiques avant une élection. Le mode de scrutin a changé 3 fois et les compétences ne sont pas définies. Nous, nous faisons campagne sur la défense des départements. Je crois que presque tout le monde autour de la table, à un moment donné, a eu l'idée de les supprimer, même si on voit que le débat a permis d'évoluer. Le défense des départements et des assemblées locales élues, avec ce qu'on appelle la clause de compétence générale, qui permettent aux assemblées de choisir ce sur quoi elles veulent intervenir et qui permettent aux citoyens de demander des comptes à leurs élus locaux. Et puis un dernier mot, évidemment, sur leurs moyens de financement, hein, puisque c'est 72 milliards de dépenses sociales qui sont dépensées par les départements. C'est un échelon utile dont il faut continuer de se battre, puisque la réforme n'est pas aboutie, pour garder toutes les compétences.
Gauthier Boucher pour le Front National.
Moi, je porte un regard assez consterné sur cette réforme parce que, ne serait-ce que symboliquement, le nom de l'instance a changé. On passe d'un conseil général à un conseil départemental, ce qui laisserait entendre que le rôle du département serait renforcé, ce qui est purement artificiel. Plus généralement, nous sommes au Front National plutôt hostile, voire franchement hostile à cette réforme territoriale qui est en train de voir le jour, qui ressemble beaucoup plus à un charcutage territorial où les régions administratives n'ont toujours pas laissé place à de véritables régions qui auraient des identités un peu plus historiques, on va dire. Et la cerise sur le gâteau, c'est cette histoire des métropoles. Ces 14 métropoles qui sortent de terre et qui vont d'autant plus assécher les zones rurales, qui vont d'autant plus appauvrir les campagnes, les zones périurbaines. Tout ça au profit de quelques grands centres urbains dans lesquels on trouve comme par hasard de grands notables socialistes, parfois quelques notables UMP qui un petit peu se partagent le pouvoir entre copains, on va dire.
Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts.
On pense que cette réforme, on reste un peu au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on s'attendait à plus de cette réforme-là. Donc contrairement à ce qui a été dit, je pense que les choses sont assez claires par rapport aux compétences qui vont rester au niveau des conseils généraux, qui vont devenir conseils départementaux. On est assez content du changement de nom parce qu'au moins c'est clair, parce que c'est vrai que conseil général, souvent les gens confondent avec le conseil régional. Donc là, c'est plus clair. Nous, en tant qu'écolo, on doit être les seuls d'ailleurs autour de la table. On est plutôt pour une clarification des compétences et des collectivités, et plutôt effectivement pour une suppression du Conseil général. Alors, ce n'est pas la suppression des départements, du territoire départemental, mais de la collectivité du Conseil général, puisqu'on pense qu'il peut avoir des transferts de compétences sur les métropoles. On prend comme exemple ce qui se passe au niveau du Grand Lyon, où il y a un transfert de compétences sur la métropole du Grand Lyon, et le Conseil départemental du Rhône reste pour s'occuper des zones rurales et des zones périurbaine. C'est une expérimentation qui est en cours et on est particulièrement attentif aux résultats parce que ça nous semble plus pertinent et que ça offre des politiques plus de proximité et que ça simplifie pour les citoyens, parce qu'au bout du compte, c'est quand même ça.
Et rentrons, si vous le voulez bien, dans ce débat.
Aide sociale et emploi, comment faire baisser le nombre de chômeurs ?
L'insertion, c'est le budget numéro 1 du conseil départemental, près de 18% du budget avec le versement du RSA. Le RSA, c'est le revenu de solidarité active, pour 144 millions d'euros par exemple en 2014, mais également les actions d'insertion de ces demandeurs d'emploi éloignés de la vie active pour 188 millions d'euros. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont pas là. Comme au plan national, le chômage a continué de progresser sur les 12 derniers mois, plus 8% en Loire-Atlantique. D'abord, Philippe Grosvalet, l'emploi, c'est un échec de la part du gouvernement, c'est un échec aussi de la part du Conseil général de Loire-Atlantique.
L'emploi, c'est la priorité numéro 1.
C'est un échec ou c'est une victoire ?
Ça doit être la priorité, ça devrait être, ou ça aurait dû être d'ailleurs, la priorité numéro 1 du gouvernement précédent, qui n'a rien fait pour résorber l'emploi. Le gouvernement actuel est à la tâche, c'est un travail de long terme, dans une Europe en difficulté. Et en Loire-Atlantique, il faut rappeler que, même si c'est toujours trop, le nombre de chômeurs, le pourcentage de chômeurs est inférieur à la moyenne nationale. Pourquoi ? Parce que nos collectivités locales, aux côtés des entreprises et du monde économique, font ce qu'il est nécessaire de faire pour créer des emplois. Nous sommes dans un département où il y a des créations d'emplois en nombre positif. Ça n'est pas suffisant.
Mais le chômage a continué de progresser. Mais c'est un échec ou pas du gouvernement, Philippe Grosvalet ? Vous continuez à soutenir aujourd'hui le gouvernement sur ces actions ?
Je vous ai répondu, bien sûr, parce que
c'est un
travail de long terme. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que la courbe commence à s'inverser. Donc, l'objectif fixé par le président de la République, c'est un objectif à terme de ce mandat, de sa mandature, à 2017. Donc, nous y sommes attelés. Et en Loire-Atlantique, je le dis, je le répète, C'est nous qui défendons l'emploi local. C'est nous qui avons accompagné Airbus dans le creux de la vague en 2008 pour créer des emplois. C'est nous qui avons permis à STX, par le biais des financements, par le gouvernement, par un appui de Jean-Marc Ayrault.
C'est ce que vous nous dites.
Bien sûr. Ouais. Et c'est nous qui avons tout fait pour construire ici les éoliennes du futur, c'est-à-dire assurer la transition énergétique. Et c'est nous qui étions encore, il y a quelques jours, chez Total pour conforter la raffinerie. Donc,
qu'on peut faire de mieux maintenant, Philippe Grosvalet ? Quelles sont vos propositions sur ce thème de l'emploi, de l'insertion ?
Bon, ce ne sont pas les collectivités locales qui créent l'emploi, ce sont les entreprises. Donc c'est aux entreprises et notamment aux donneurs d'ordre de donner du sens à cette bataille pour l'emploi, c'est-à-dire qu'ils donnent la confiance d'abord aux entreprises sous-traitantes, qu'ils embauchent eux-mêmes, qu'ils recrutent eux-mêmes, des jeunes notamment, qui sont formés d'ailleurs ici par la région. Et puis, notre préoccupation à nous, département, qui avons la responsabilité du RSA, c'est-à-dire des personnes les plus éloignées de l'emploi, de celles et ceux de nos concitoyens qui sont le plus en difficulté, c'est de leur redonner l'espoir et de les remettre vers le chemin de l'emploi. C'est ce que nous faisons.
Comment on fait ?
3000 personnes, 3000 allocataires du RSA en Loire-Atlantique, par un soutien appuyé de notre collectivité, du département avec ses unités emploi, retrouvent le chemin d'un emploi durable chaque année.
Qu'est-ce qu'on fait de mieux ? Qu'est-ce que vous allez proposer ?
Eh bien, nous proposons d'augmenter cette somme. Nous proposons une alliance avec le monde de l'économie pour que les entreprises se préoccupent aussi.
Mais les entreprises vont embaucher s'ils ont du travail.
Les entreprises embaucheront quand l'économie ira mieux et elle s'améliore en Loire-Atlantique. Les conditions sont réunies en Loire-Atlantique pour créer de l'emploi.
Gatien Meunier, Aymeric Cesseau ensuite.
L'emploi est pour tous et pour nous, et bien évidemment, la première des priorités. C'est aussi le souci majeur, la préoccupation majeure des Français. Pour notre part, un constat, le compte n'y est pas aujourd'hui. Il est clair, tant au niveau national qu'au niveau local. Pour nous, deux objectifs, deux mesures concrètes. Le lancement du pacte d'insertion par l'emploi. Il faut que notre collectivité, qui est la collectivité des solidarités, et à travers donc les bénéficiaires du RSA, nous devons absolument tout mettre en place pour faciliter la réinsertion de ces personnels, de ces personnes.
Alors, quelle proposition nouvelle vous faites pour l'insertion, justement ?
Nous avons projeté de lancer avant l'été un pacte de l'insertion par l'emploi en partenariat avec les entreprises. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de cette campagne, de rencontrer beaucoup d'acteurs.
Mais les entreprises ne vont pas recruter s'ils n'ont pas d'activité.
Non, mais on peut les accompagner. Ouais. On peut les accompagner dans cette mesure à travers, je dirais, des mises en réseau, à travers des relations et à travers des pactes que l'on peut établir entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. C'est aussi le rôle de notre collectivité d'assurer ce lien, de favoriser ce lien, cette mise en relation avec les bénéficiaires et les entreprises qui peuvent assurer l'emploi. L'autre volet, c'est effectivement favoriser l'investissement. Ça a été dit, je suis tout à fait d'accord, ça n'est pas à cette collectivité territoriale d'assurer le développement économique et l'embauche directe des salariés. Mais il y a un volet investissement qui est important. Dans le cadre de la préparation du budget 2015, le Conseil général a amputé son budget investissement de 25 millions d'euros. Si j'ajoute Nantes et la région, il manquera 170 millions d'euros sur le vol investissement pour 2015. Ça n'est pas un signe politique encourageant.
Plus d'investissement, ça veut dire donc qu'il faudra trouver les financements.
Plus d'investissement.
Plus d'impôts pour les années à venir.
Le levier ne sera pas l'impôt.
Ça sera quoi alors ?
C'est aussi un seuil qui est atteint, qui est aujourd'hui insupportable par nos concitoyens. Ce sera la réorganisation, ce sera effectivement d'une meilleure utilisation des acteurs de cette collectivité en réorganisant les services, en mutualisant,
Comme les socialistes, comme le Parti socialiste, aujourd'hui, vous dites qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts sur les 6 ans à venir.
Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Nous ferons tout. Et notre responsabilité...
De vos collègues de l'opposition, qui a, sur le plateau de Télé Nantes, a évoqué l'idée qu'il ne pourrait pas ne pas y avoir d'augmentation d'impôts. Comme, comme Monsieur Météro à la boule, comme Monsieur Météro, dont je rappelle qu'il était l'ancien président des maires UMP de Loire-Atlantique, comme Monsieur Triard, ancien président du Conseil général, qui a déclaré publiquement que les impôts augmenteraient de 2 à 3% dans sa communauté.
Mais le futur responsable de groupe, qui est Monsieur Gatien Meunier, si je me trompe pas, vous serez responsable du groupe démocratie départementale. Si vous êtes élu,
oui.
Vous nous dites aujourd'hui pas d'augmentation d'impôts.
Non, pas d'augmentation d'impôts, de projeter sur les années à venir. Nous ferons tout pour contenir la fiscalité et c'est de notre responsabilité d'élu.
Aymeric Cesseau, sur l'emploi, l'insertion.
Mais écoutez, d'abord, j'observe que Gatien Meunier et Philippe Grosvalet ont un gros problème, c'est que tous deux soutiennent des politiques de désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités locales. C'est 28 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Alors même qu'on est en train de parler d'investissement à l'instant, les collectivités locales, c'est plus de 70% de l'investissement. Il n'y aura pas de relance économique sans l'action des collectivités locales la plus déterminée. Mais vous avez soutenu toutes les mesures de Sarkozy qui a pratiqué, malheureusement, moi je le regrette, la même politique que Valls et Macron actuellement. Donc, il faut relancer ces investissements. C'est de l'emploi direct. Quand on construit un collège, c'est les entreprises du territoire qui travaillent comme ça. J'observe d'ailleurs que dans les départements gérés par la droite, regardez ce qui se passe dans le Maine-et-Loire, les investissements sont au point mort, la dette a explosé en 10 ans, et en plus, on supprime des postes. Donc, il faut maintenir l'emploi public.
C'est pas le cas en Loire-Atlantique.
C'est pour ça que je faisais état de ce qui se passait dans le département voisin géré par la droite.
La Vendée est gérée par la droite, dans laquelle la situation n'est pas la même. Hein.
Et donc, il faut défendre l'emploi public, il faut défendre l'investissement public. Et puis, on a aujourd'hui un scandale considérable qui est celui du CICE, parce que dans le même temps qu'on enlève 28 milliards aux collectivités locales, on en donne 20 sans contrepartie aux entreprises. Ça donne le scandale de la CEITA où on a 1,3 million pour licencier. Total, on en parlait, c'est 80 millions. Airbus refuse de donner ses chiffres, mais demande que le seuil soit abaissé pour pouvoir en bénéficier de manière plus massive. Nous demandons à ce que les élus ensemble, nous demandions des comptes. J'ai remis une lettre au préfet samedi pour demander des comptes sur l'utilisation de l'argent public sous forme de chèque, parce qu'on appelle ça un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est en fait un chèque avec l'argent des contribuables qui est donné aux entreprises. Nous formulons donc la proposition d'un comité départemental pour l'emploi, capable, avec les chefs d'entreprise, avec les organisations de salariés, avec les élus locaux, de faire le contrôle sur l'argent public utilisé, versé, et de se fixer des objectifs en matière de création d'emplois.
On l'a bien compris, pour vous, Parti communiste, l'objectif c'est d'abord d'investir, faire des constructions, pour ça il faut de l'argent, et vous le disiez, c'est à l'État aussi de donner. Parti socialiste comme UMP, ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y aura pas plus d'argent, parce qu'on se serre la ceinture.
Il y en a beaucoup
donc
moins.
On le trouve où ? On le trouve avec des impôts locaux.
Mais d'abord,
il faut augmentation des impôts locaux.
Il faut mener cette bataille-là. Deuxièmement, il y a des capacités de recours au crédit qui sont disponibles. Il faut remettre à plat le rapport avec les banques, etc. Mais d'abord, il faut mener la bataille avec ce gouvernement dont la politique sur l'emploi est absolument inefficace et que je crois que quand on est de gauche, on ne peut plus soutenir. Il n'y aura pas de rassemblement de la gauche autour de la ligne de Valls et de Macron.
Gauthier Boucher pour le Front National.
Oui, nous n'avons pas, je pense, la naïveté de croire que pour l'emploi, tout pourra se décider à l'échelon local ou départemental. Vous mentionniez le fait que finalement le département pouvait créer les conditions de l'emploi, mais qu'il ne crée pas directement l'emploi, que c'était bien davantage le tissu d'entreprise. Donc il faut que ce tissu soit dense et varié économiquement aussi, qu'on n'ait pas des bassins d'emploi uniquement spécialisés dans un seul type d'économie. Mais ce qu'il faut faire, je pense, même si ça ne pourra pas se faire là demain en avril 2015, c'est en 2017 se donner les moyens d'une politique volontariste pour l'emploi, et ça passe naturellement par un changement au niveau de l'exécutif. Le nom de Macron, le nom de Valls... Ouais,
là, nous sommes sur des élections départementales. Je vais vous demander des propositions pour l'insertion et l'emploi ici, pour le département. Parce que malheureusement, on va pouvoir changer beaucoup de choses sur les gouvernements et les actions à venir.
Effectivement, même si toute élection locale n'est pas étrangère à des enjeux nationaux.
Vos propositions du Front National sur cette question de l'emploi et l'insertion ?
Eh bien, déjà, on pourrait commencer par, même si c'est purement symbolique, par faire des vœux concernant cette question tragique du détachement des travailleurs, qui fait que nos travailleurs sont mis en concurrence avec une main-d'œuvre étrangère, notamment est-européenne, qui baisse les salaires des travailleurs locaux.
Là, on est aussi sur des compétences qui ne sont pas celles du Conseil général, du Conseil départemental.
Oui, mais qui pourraient l'être si les compétences, qui d'ailleurs ne sont pas connues, les compétences du futur Conseil départemental étaient plus efficaces et étaient plus cohérentes.
mais la compétence majeure, c'est l'insertion des demandeurs d'emploi qui sont au RSA, que l'on aide à réinsérer dans la vie active. Quelles sont vos propositions sur ce thème, le Front National ?
Bien déjà que le département conserve cette prérogative de donner le RSA.
Bon, pas de proposition particulière sur l'emploi et l'insertion.
Intimement, moi je pense que ça se décide au niveau national et que...
Le Conseil général n'a pas à jouer sur ces questions-là.
Il doit aider à la bonne implantation des entreprises et à la richesse économique du tissu industriel économique, mais...
Les habitants de Loire-Atlantique vont apprécier que, quand dans le même temps on se plaint que l'emploi profite aux étrangers. C'est ce que dit le Front National. J'ai les chiffres du ministère du Travail. J'ai téléphoné encore hier au ministre du Travail. Et il y aura des contrôles sur le site industriel. Mais cette question...
Vous avez demandé au ministre des contrôles ?
Bien sûr. Nous l'avions fait déjà avec le maire de Saint-Nazaire auprès du préfet pour dire que nous souhaitions que cette question soit transparente, que les chiffres en matière d'emploi de travailleurs détachés soient mis sur la place publique, de façon à ne pas laisser notamment le Front National dire tout et n'importe quoi sur ce sujet, notamment grossir considérablement les traits pour finalement victimiser les travailleurs étrangers. Non, la question c'est...
Il n'y a pas de victimisation.
Si, si. La question c'est quel emploi ? Combien d'emplois ? Comment les grands donneurs d'ordre qui ont aujourd'hui des carnets de commandes à 8 ou 9 années, comment est-ce qu'ils structurent l'emploi local au travers de leurs sous-traitants ? Comment, avec la région, nous organisons la formation pour que les jeunes du bassin d'emploi puissent accéder à ces emplois ? Et comment nous faisons en sorte que celles et ceux, et ça c'est la responsabilité du département, qui sont le plus éloignés de l'emploi, qui sont aujourd'hui les victimes sociales du chômage, comment nous faisons en sorte de les remettre en chemin ? Il y avait un reportage sur France 2, lundi soir, très éclairant sur cette question, avec des témoignages de personnes qui ont retrouvé un emploi et qui donnent une image positive de notre territoire. C'est ce à quoi nous nous attachons.
Dans le prolongement du propos...
Gatien Meunier, UMP, oui.
Effectivement, moi, pour ma part, à travers les contacts que j'ai pu nouer à l'occasion de cette phase de préparation de campagne, le monde de l'entreprise, les syndicats professionnels, les chambres professionnelles et autres sont tous favorables et en attente d'un signe fort de notre collectivité pour les accompagner. Ils sont prêts aussi, dans le cadre de partenariats, à s'inscrire avec nous dans cette démarche pour favoriser le retour à l'emploi pour cette population fragilisée, celle qui est en attente, bénéficiaire de nos aides et qui doit pouvoir être, à un moment donné, réinsérée. C'est notre souci, ça doit être notre préoccupation première.
Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts. Proposition sur l'insertion et l'emploi.
Alors moi, je vais rester donc sur l'échelon départemental, puisque c'est celui qui nous intéresse, et on a des propositions très concrètes par rapport à l'emploi. Donc la tâche de la collectivité, c'est de créer un environnement propice aussi à l'économie locale et de proximité, parce qu'on parle des grands donneurs d'ordre au niveau industriel, mais il y a toute cette économie de proximité au niveau de l'artisanat notamment. Et nous, ce qu'on propose, c'est de généraliser davantage tout ce qui est circuit court. Alors effectivement, hein, il y a déjà du travail de fait, je le reconnais, par rapport au Conseil général, mais c'est vraiment d'intensifier et de généraliser
circuit
les
court,
circuits
courts. On va traduire,
courts.
Si vous voulez bien, pour
alors,
nos auditeurs,
les circuits
du producteur
courts,
au consommateur.
Voilà, voilà. Bon. Donc c'est le circuit court pour tout ce qui est alimentation dans les collèges, dans les EHPAD également.
C'est pas utopique ça, parce qu'on fait tous nos courses dans les hypermarchés aujourd'hui quand même. Hein,
changer de pratique, monsieur Tordet.
Mais je vais essayer. Il faut que je trouve mon agriculteur à côté de chez moi.
Non, mais je ne vous parle pas...
Je ne vous parle pas
forcément des consommateurs, mais je parle notamment de tous les établissements qui sont sous la responsabilité du Conseil général, comme les collèges. Les EHPAD également peuvent faire l'objet de marchés publics qui facilitent et qui privilégient les circuits courts. De toute façon, nous, on pense que de manière générale, donc il faut un véritable appui à l'artisanat local, des aides pour des investissements d'équipements nécessaires au respect de la réglementation pour les marchands ambulants notamment, s'appuyer également sur ce qu'on appelle des points de contact de services publics pour, sur ces points de contact-là, développer également des services commerciaux, permettre à des commerçants artisanats de venir déposer et vendre leurs produits. Et puis, Philippe Grosvalet parlait des éoliennes offshore. Moi, je pense qu'effectivement, dans le secteur de la transition énergétique, il y a un chantier énorme qui est vraiment propice à donner de l'emploi. C'est aussi
là,
la réhabilitation thermique.
Là, vous parlez thermique. En tant que conseillère régionale. Là, on est moins sur les terrains du conseil départemental.
Sur la réhabilitation thermique, non, pas du tout. Le conseil général a quand même un parc de locatifs sociaux dans lequel c'est plus de 7000 logements dans lesquels on peut mettre en place des chantiers de réhabilitation thermique. Il y a eu des diagnostics énergétiques de fait. Et justement, ces diagnostics énergétiques doivent aboutir à un véritable plan de réhabilitation thermique dans ces logements, parce que non seulement on crée de l'emploi, mais en plus on permet à des ménages qui sont défavorisés, qui ont peu de moyens d'avoir des charges énergétiques moins importantes. Et puis c'est aussi par rapport au marché public de fonctionner par lot et de permettre à des petites entreprises, des TPE ou des PME, de pouvoir répondre au marché public. Hier, nous avons rencontré la CAPEB 44 qui disait qu'effectivement les toutes petites entreprises avaient du mal à répondre aux appels d'offres parce que généralement c'était des appels d'offres globaux qui du coup ne permettaient pas aux toutes petites entreprises de répondre. Et je termine, puisque les hommes ont beaucoup parlé, donc je pense
vous
que
êtes la
j'ai,
seule femme, voilà. Je suis bien désolée.
Par rapport au RSA, moi, je pense qu'il faut avoir des parcours différenciés par rapport au public qui touche le RSA. Parce que effectivement, on a un public qui est en capacité de rentrer dans le processus de réinsertion professionnelle tel qu'il existe. Et puis, il y a un public aujourd'hui qui est vraiment trop éloigné du marché de l'emploi pour rentrer dans ce parcours de réinsertion professionnelle. Et je pense que par rapport à ce public-là, il faudrait déjà être dans une reconnaissance de petites activités qu'il pourrait faire, style bénévolat, qui n'est pas une activité strictement professionnelle, mais au moins reconnaître qu'ils sont capables, qu'ils sont en capacité de justement rentrer dans une activité bénévole pour leur redonner de l'estime de soi. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire sur la reconquête de l'estime de soi par rapport à ce public qui est vraiment trop éloigné
travailler
du marché du travail.
Travailler gratuitement, c'est pas
sûr
que le Parti communiste soit d'accord
avec
ça.
Ah non, c'est
ça.
Pas du travail gratuit, c'est du bénévolat.
Ah d'accord. Et c'est donc c'est pas du travail gratuit.
Ah ben, si vous considérez que toutes les personnes bénévoles se font exploiter, notamment par rapport aux auditeurs de Radio Fidélité, oui. Je suis pas sûr que vous fassiez
absolument.
Des
et surtout à tous les bénévoles qui se trouvent dans le studio derrière, voilà. Qui sont en train de chronométrer. Aymeric Cesso, vraiment rapidement sur ce thème de l'emploi, et ensuite Gatien Meunier.
Je vais essayer d'aller très vite. D'une part, je veux revenir une seconde sur la question des travailleurs détachés pour rappeler que nous sommes le seul groupe au Parlement européen à avoir voté contre cette directive. Le Front National s'était abstenu pour des raisons opposées aux nôtres, c'est-à-dire que si on n'augmente pas les niveaux sociaux dans les pays, on continuera avec cette concurrence et qu'il faut évidemment gagner l'égalité des droits pour mettre un terme à cette concurrence déloyale entre travailleurs européens. D'autre part, le chantier naval est en vente et aujourd'hui il est inacceptable quand on a un fleuron industriel stratégique national dans un département, une départementale, que le gouvernement reste silencieux. Donc il faut obtenir, je ne sais pas, peut-être que Philippe Grosvalet a des informations.
Restons sur le terrain départemental encore.
Mais c'est tout à fait structurant sur le terrain départemental et je crois moi que les élus locaux doivent obtenir des comptes de l'État actionnaire.
Ils ne mouillent pas assez leur chemise selon vous, ces élus locaux.
Mais nous ne pouvons pas accepter ce silence. Pierre Laurent s'est adressé au gouvernement la semaine dernière pour obtenir des indications. On a des Dewu qui est venu visiter, Ficantieri, les Italiens qui viennent de confirmer leur intérêt. Il faut que nous obtenions des choses.
Ça fait 15 ans qu'il est en vente, le chantier. Vous découvrez maintenant qu'il est en vente. Ça fait 15 ans que nous nous en
préoccupons.
J'avais alerté, j'étais un des premiers à alerter sur les risques. À l'époque, quand Accuriard s'était porté acquéreur des chantiers.
Tout le monde nous disait, c'est bien, ça reste en Europe. Et en un an et demi, c'est passé en Corée du Sud. Bon, deuxièmement, la conditionnalité, j'ai parlé de contrôle de l'argent public, la conditionnalité sociale et écologique des aides publiques pour obtenir des garanties des entreprises sur les investissements, l'emploi. C'est très important. Et troisièmement, un chiffre, il y a près de 50% des gens qui auraient le droit au RSA qui ne le demandent pas. C'est tout l'intérêt de conserver un service public efficace et de s'engager à la non-réduction des agents pour pouvoir répondre aux besoins des usagers.
Gatien Meunier, rapidement pour Démocratie 44.
Rapidement, pour ce qui est du monde de l'artisanat, cela a été évoqué. Là aussi, il y a toute une activité de proximité qu'il faut que l'on encourage, que l'on accompagne, notamment à travers les conditions d'accès aux consultations, aux appels d'offres. Nous avons prévu dans notre programme de mettre en place des dispositifs qui favoriseront l'accès des petites et des entreprises à ces marchés, donc des collectivités locales. Et puis, dernièrement, sur le RSA, pour revenir sur le RSA, là aussi, les bénéficiaires du RSA ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et je pense que nous devrions, pour faciliter la réinsertion dans le monde du travail, les inciter peut-être à rejoindre des travaux d'intérêt général, si je puis dire, qui pourraient être là aussi rémunérés sur des bases modiques, mais qui seraient une juste reconnaissance de ce travail.
Déjà une demi-heure de débat. Dans une demi-heure, vous pourrez poser également vos questions, auditeurs et auditrices de Fidélité. Vous nous appelez au 02 40 69 27 27, deuxième partie de ce débat.
Éducation, quelles propositions pour les collèges publics et privés ?
C'est en effet le conseil départemental qui est en charge des collèges. C'est 10% du budget général qui va dans ces établissements scolaires. Alors le conseil départemental construit les collèges publics, 10 nouveaux collèges publics en 10 ans lors de la dernière mandature. Ça a été d'ailleurs l'axe fort de la majorité socialiste actuelle. Et puis pour les collèges privés, pas de construction, conformément à la loi, bien évidemment, mais une participation aux frais de fonctionnement et en personnel non enseignant. En budget, l'année dernière, 40 millions pour les collèges publics qui scolarisent 38 000 élèves et 15 millions pour les collèges privés qui scolarisent 27 000 élèves. Alors faut-il continuer à construire des collèges publics? Quelle collaboration avec l'enseignement privé? Nous allons en parler avec nos invités. Philippe Grosvalet, 10 collèges publics en 10 ans. C'était une volonté, c'était très clair. Il fallait que l'enseignement public soit plus fort en Loire-Atlantique.
10 collèges publics en 10 ans et encore 8 dans les 6 prochaines années si vous consultez notre proposition, parce que d'abord il y a la démographie qui est galopante dans ce département et tant mieux, 13 000 habitants par an, ça signifie environ 1000 élèves de collège, de classe d'âge de collège par an dans ce département, ça signifie plus d'un collège public, mais comme des familles choisissent l'enseignement privé, nous construisons en moyenne un collège public supplémentaire par an.
Il faut continuer à construire ?
Il faut continuer à construire, d'abord parce qu'il y a cette démographie, et ensuite parce que si les choses étaient équilibrées sur le département, ce serait plus simple. Mais les familles choisissent les lieux où elles habitent, et donc il nous faut adapter les collèges. C'est pour cela d'ailleurs que nous construisons aujourd'hui des collèges modulaires. Mais il ne suffit pas de construire des collèges, vous l'avez dit vous-même. Nous intervenons dans tous les collèges publics et les collèges privés, d'abord en dotation. Et je l'ai dit d'ailleurs très récemment au directeur diocésain, l'argent que nous mettons et que nous investissons dans les collèges publics en fonctionnement profite évidemment aux collèges privés, puisque la dotation aux collèges privés est basée sur la dotation aux collèges publics. Et comme nous sommes un des départements en France qui aide le plus le collège, en investissement, c'est net, puisque nous étions passés d'un budget de 32 millions à un budget de près de 50 millions aujourd'hui, en 3 ans. C'est dire si l'effort en matière d'éducation est important. Et ensuite, en matière d'accompagnement éducatif, grandir avec la culture, les classes presse, les classes environnement, ce dictionnaire que nous donnons à tous les élèves de 6e de Loire-Atlantique. Voilà des actions fortes que nous allons conforter au travers d'une proposition, d'un passeport pour les collèges.
Construire autant de collèges publics comme vous l'avez fait, c'est plutôt rare hein, pour les départements. Est-ce que c'est une façon aussi, pour vous, très clairement, d'amoindrir l'enseignement catholique ?
Évidemment non, vous le savez très bien. D'abord parce que nous sommes dans un territoire où la guerre des écoles est finie, est terminée, est achevée. Et que
ah, vous croyez ?
Bien sûr, bien sûr. Je pense, en tout cas, c'est mon souhait. Et que nous construisons et nous faisons, nous respectons la loi. Vous l'avez dit, je l'ai déjà dit sur votre antenne. La loi, toute la loi, rien que la loi. Donc, nous
pas plus.
Et nous ne ferons pas plus parce que c'est la loi. Et il appartient à l'enseignement privé de se doter des équipements qui lui sont nécessaires.
Gatien Meunier pour l'UMP, le Centre, Démocratie 44.
Eh bien, écoutez, nous, notre conviction, c'est que l'enseignement privé participe à cette grande mission dans le service public de l'éducation nationale. Je ne ferai pas tout à fait la même analyse que le précédent intervenant. S'agissant de la guerre un petit peu public-privé, et on est, je le maintiens, dans une logique, allez, je dirais pudiquement concurrentielle. Ceci étant, la concurrence peut être un moyen d'émulation que l'on ne peut que favoriser. Mais là, quand il s'agit d'opposer, c'est un peu différent.
Il y aurait opposition, selon vous ?
On implante souvent des collèges publics dans la rue en face de l'établissement privé. Si ce n'est pas une volonté de les libérer, à ce moment-là, chacun est libre de penser ce qu'il veut.
Grave de relancer la guerre scolaire. Je pense que les familles doivent avoir le choix. Les familles, toutes les familles en Loire-Atlantique doivent avoir le choix de mettre leurs enfants soit dans l'enseignement public, soit dans l'enseignement privé. Et nous offrons à toutes les familles de Loire-Atlantique de pouvoir faire ce choix. Il y a encore une très forte proportion dans ce département, par rapport à d'autres départements français, d'élèves dans l'enseignement privé. Donc nous sommes dans un équilibre d'environ 45 à 55%. Je pense que c'est un équilibre qui est maintenu sur ce département.
Au-delà des discours, il y a les faits. Bon, voilà, fermons cette parenthèse. Nous, effectivement, il y a eu 10 collèges de construits. Nous avons approuvé cette politique. Donc, je considère qu'elle peut nous être aussi en partie attribuée. Il y a aujourd'hui 8, dans la mesure où on approuve, c'est qu'on participe à la décision, que je sache, chers collègues.
Vous en aviez construit 4 en 20 ans.
Oui, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je parle de ce à quoi nous avons participé, ce à quoi nous sommes impliqués. Dans lesquels nous nous sommes impliqués. La construction des huit collèges qui sont programmés, bien sûr, il ne s'agit pas de revenir sur ces décisions, ça a été voté, ce sont des décisions que nous honorerons. Par contre, il y a un gros volet de rénovation, d'entretien des collèges, et là, public et privé. Nous le disons. Il ne s'agit pas de
revenir. En particulier de l'enseignement catholique. Je ne veux pas jeter la pierre à l'enseignement public, mais la rénovation dans l'enseignement catholique, visiblement, ça pose un sacré problème.
Alors, il ne s'agit pas de réouvrir là encore une vieille querelle et surtout de se réinscrire. Dans la loi Fallou, c'est fini. C'est quelque chose qui a disparu. On ne rétablit pas ces pratiques-là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des obligations qui résulte de la loi, dans le domaine de l'accès PMR, dans le domaine de la norme incendie, dans le domaine des personnes handicapées, dans le domaine des économies d'énergie. Ce sont des obligations qui résultent de la loi. Nous disons que, compte tenu de ces obligations, il appartient à la collectivité territoriale, qui est le département, de participer à l'accompagnement de ces mises aux normes, de la réalisation de ces projets. Voilà, et puis il y a aussi, c'est ce que nous disions, je le disais à l'instant, un gros retard dans la mise aux normes et dans la rénovation des collèges. Il y a là aussi un gros travail à faire en termes de l'accompagnement des projets. Et puis sur la méthode, je souhaite que dans l'avenir, nous puissions, en amont, comme on le fait avec l'Académie, pouvoir associer la direction de Cézanne sur un certain nombre de sujets, comme la définition de la carte scolaire, l'organisation des transports scolaires, si tant est que cette compétence reste au sein de notre collectivité. Et Philippe Grosvalet a évoqué la distribution des dictionnaires, c'est quelque chose qu'il faudra poursuivre, qui participe effectivement à l'éducation. Et puis nous avons un autre projet de développer ce qu'on appelle les collèges connectés. Aujourd'hui, l'outil informatique est indispensable. Les enfants naissent avec un iPad, un iPhone et autres accessoires du même type au bout des doigts. Il faut que nous puissions bien les intégrer dans le fait que ces outils-là ne sont pas que ludiques, ce sont aussi demain des outils de travail indispensables.
Gauthier Boucher pour le Front National. Vous êtes très en retard en temps de parole sur ce thème de l'éducation et des collèges.
Oui, bien sûr, il est important de maintenir la construction de collèges publics. Là, je ne vais pas vraiment démentir M. Grosvalet, même si on voit qu'il y a une sorte de guerre des chiffres, finalement, entre l'ancienne majorité UMP et le PS, l'un accusant l'autre d'avoir trop ou pas assez construit. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Pour rebondir juste sur le dernier point mentionné par Monsieur Meunier, le fait d'avoir des collèges, voire des lycées connectés, le fait que ça soit présenté comme une panacée à ce que devrait être l'instruction publique, ça masque le fait que ces collèges connectés, enfin cette mise en avant de l'outil informatique qui serait un petit peu ludo-éducatif dans l'éducation nationale, nous y sommes tout à fait opposés parce que c'est vraiment détacher les enfants de ce que devraient être finalement les fondamentaux de l'instruction publique, savoir lire, l'instruction publique qui d'ailleurs n'est pas l'éducation nationale, savoir lire, écrire, compter, avoir les savoirs élémentaires nécessaires, recommencer à faire de la géographie et une histoire qui ne soit pas une histoire thématique, par exemple.
Là, c'est pareil, on est sur des compétences de l'éducation nationale. Oui. Pour revenir au conseil départemental, vos propositions sur ce thème des collèges ?
effectivement, poursuivre la construction des collèges publics, songer également, parce que les collèges et toutes les écoles en général doivent être des espaces sanctuarisés, non seulement de toute idéologie et de toute violence, songer à leur vidéoprotection, qui n'est pas leur vidéosurveillance, mais qui est simplement...
Des caméras dans tous les collèges ?
C'est
ce que vous proposez ?
Au moins les plus sensibles, au moins ceux de ZEP, parce qu'on voit que ces collèges ne sont pas exempts de violence, qui a beaucoup de dégradation.
Quels sont les chiffres sur la violence ?
Oh, j'ai pas les chiffres en tête, d'autant plus que je suis finalement le seul candidat devenu sans fiche, ce qui est quand même une différence avec les partis.
Vous avez peut-être tout dans la tête, c'est possible.
J'ai tout dans la tête, oui, mais je n'ai pas les chiffres et je pense pas que donner des chiffres, se faire la bataille des chiffres constamment.
Non, c'est juste parce que vous nous parlez d'insécurité dans les collèges, donc j'aurais voulu avoir quelques chiffres.
Je pense finalement que les meilleurs chiffres, ce sont les manchettes de Presse Océan, ce sont les manchettes de West France, qui ne sont pas forcément des titres avec lesquels le Front National peut avoir des affinités, mais qui relatent le quotidien des gens.
Aymeric Seyssaud pour le Parti communiste.
Oui, non, je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse entraîner dans ce discours sur la violence dans les collèges. Il y a une communauté éducative qui fait son travail avec beaucoup de courage et qu'il faut continuer d'aider et de soutenir. Il n'y a pas des gangs armés dans nos collèges du département, et c'est heureux. Sur la question très précise que vous avez posée sur public-privé, je rejoins la position de Philippe Grosvalet sur, qui était une belle formule, la loi et rien que la loi. Je crois que la loi encadre bien maintenant cette problématique et qu'il faut s'y tenir. Deuxièmement, je voulais ajouter que nous sommes satisfaits que la compétence collège reste au département. Le plus mauvais département a depuis 10 ans fait 10 fois mieux que l'État en ce domaine. C'est important, ça rattache des élus à des territoires et nous sommes satisfaits que ça puisse rester dans ce cas. Troisièmement, alors il y a la compétence transport qui reste dans le flou. Nous étions pour permettre la gratuité des transports scolaire pour les collégiens du département. C'est quand même 47 000 élèves qui sont transportés par jour. C'est tout à fait important. Et pour permettre l'égalité républicaine, nous étions favorables.
Vous militez pour cette gratuité des transports scolaires.
Scolaires, voilà.
Et puis, c'est un budget de combien, ça, les transports scolaires? Quelqu'un
là... 36 millions d'euros.
36 millions d'euros. Faudra les trouver, là aussi.
Mais c'est tout à fait en deçà de ce que l'État nous doit depuis des années.
Oui, et la participation, je rajoute la participation des familles, représente 17%. La participation des familles représente 17% du coût global.
Et c'est une compétence qui pourrait aller à la région.
C'est une compétence qui pourrait aller à la région, mais la bataille parlementaire n'est pas finie et tout reste à voir. Et c'est important qu'on en parle un peu quand même de cette discussion. On est en train pratiquement de changer de République. Nous étions pour consulter les gens sur cette réforme territoriale par un référendum. Un dernier mot pour ne pas être trop long sur l'accès à l'informatique, c'est tout à fait important, c'est matériel nouveau au numérique. Un département comme le Val-de-Marne met 13 000 ordinateurs neufs dans les mains des élèves de 6e. À côté, dans les Hauts-de-Seine, qui est le département le plus riche de France, on donne 200 ordinateurs réformés, ça fait la différence. Et d'ailleurs, je veux rappeler que le Val-de-Marne est le département le moins endetté de la région parisienne, comme quoi, quand nous gérons, ça marche.
Qui est à la tête du Val-de-Marne? Ah, le Parti communiste, pardon.
Voyons.
Emmanuel Quelle Bouchot
question.
Pour Europe Écologie Les Verts.
Qui ne dirige pas le département, pas encore.
Non.
Sur la question de la rénovation des collèges, effectivement, on est tout à fait d'accord. Moi, personnellement, sur mes 4 enfants, il y en a 3 qui sont collégiens. Donc, effectivement, je peux voir que dans certains collèges, il y aurait nécessité de rénovation. Sur l'informatique, donc, il y a l'outil Illico, aussi bien pour les collèges que pour les lycées d'ailleurs, qui est un très bon outil. Mais je pense qu'il faudrait travailler davantage sur l'amélioration de l'utilisation de l'outil. Parce que il suffit pas de mettre un outil en place. Moi, je peux voir vraiment au quotidien que l'utilisation est très différente d'un collège à un autre et qu'il faudrait vraiment du travail d'accompagnement pour qu'il soit véritablement utilisé à sa pleine puissance, parce que ça peut vraiment être un outil formidable. Sur les rénovations et constructions d'établissements scolaires, enfin collèges, nous, ce qu'on propose, c'est de les rénover pour permettre de pouvoir, comment dire, exercer des formes d'éducation innovantes dans les collèges, puisqu'on peut s'apercevoir que beaucoup d'élèves ne se retrouvent pas aujourd'hui dans le modèle qui leur est proposé. Alors, il y a un travail de fait actuellement par rapport rapport au, à la construction d'un collège lycée Freinet, méthode Freinet. Et on pense que sur les collèges existants, on pourrait justement réserver des locaux pour qu'il y ait des formes innovantes d'éducation offertes à des élèves, à des collégiens notamment, qui ne se retrouvent pas aujourd'hui dans le modèle qui leur est proposé aujourd'hui. Et puis, ce qu'on voudrait aussi, c'est ouvrir davantage les collèges sur les quartiers. Je vois sur sur Nancy, il y a le collège Stendhal qui a été formidablement rénové, hein, il faut l'avouer, avec beaucoup d'équipements en matière d'énergie renouvelable,
et
notamment.
Ouvrir, ça veut dire quoi ?
Ouvrir, c'est justement, bah, typiquement, sur ce collège-là, c'est demander à des associations de faire venir des gens du quartier, des parents notamment, pour qu'ils puissent découvrir comment est le collège, comment marchent ces équipements d'énergie renouvelable, parce qu'en même temps, c'est valoriser également le collège, et puis c'est faire du lien avec les familles, dont on sait que quelquefois, c'est compliqué de rentrer en contact avec certaines familles. Donc, ouvrir davantage les collèges sur les quartiers, sur les communes, et puis ouvrir également les salles aux associations quand les collèges ne sont pas utilisés, c'est-à-dire hors période scolaire. Donc voilà ce qu'on propose par rapport au collège. Et puis, dernière chose, par rapport au décrochage scolaire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une compétence directe du Conseil général, puisqu'on touche...
Plutôt de la région.
Oui, la région, oui.
Effectivement, il n'empêche que justement, au niveau de la région, nous, on voit qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire au niveau des lycées, notamment dès la seconde, parce que justement, il n'y a pas eu suffisamment de prévention au niveau des collèges. Il y a vraiment un travail très important de prévention du décrochage scolaire à faire avec les équipes, effectivement, enseignantes. Mais je pense que c'est aussi de la responsabilité du Conseil général, parce que c'est pas que de la gestion d'établissement. Il y a des gens qui vivent à l'intérieur.
9h45 sur Fidélité. Merci de nous accompagner pour ce débat sur les élections départementales. Avec nous, des représentants du Parti Socialiste, de la droite, du PC, du Front National et de Europe Écologie Les Verts, nous passons à la troisième partie de cette émission.
Personnes âgées et handicapées, quels accompagnements ?
Si on rassemble les budgets consacrés à l'accompagnement des personnes âgées et handicapées, cela devient le budget numéro 1 du département. 22% du budget pour l'APA, qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées. C'est une aide pour les personnes âgées dépendantes pour payer les soins à domicile ou les maisons de retraite. Et puis pour les personnes handicapées, on a la PCH, la prestation de compensation du handicap. L'APA, c'est en 2014 122 millions d'euros et la PCH 33 millions d'euros. Évidemment, pour les personnes âgées, ces allocations vont qu'augmenter avec le vieillissement de la population. Mais déjà, il manque des maisons de retraite. Il faut attendre en moyenne 2 ans et demi pour avoir une place. Il n'y a pas assez de soins à domicile en plus. Alors comment on va accompagner ces personnes vulnérables, que ce soit les personnes handicapées ou personnes âgées? Et surtout, comment on va financer tout cela? Mesdames, messieurs, si vous voulez bien répondre à la question. Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts. On tourne.
Merci, on vois ça. Je commençais à m'habituer à intervenir après tout le monde.
Non, mais bon. Allez-y, profitez-en, prenez la parole.
Sur les personnes âgées, alors effectivement, vous dites qu'il manque de maisons de retraite. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que justement, en termes d'habitat, pour les personnes âgées, entre le maintien à domicile et la maison de retraite, il y a vraiment un potentiel énorme en termes d'innovation d'habitat. Puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit... Finalement, en termes d'innovation d'habitat, peu de choses se faire, beaucoup de choses se disent, mais finalement, concrètement, on a peu de choses à proposer aux personnes âgées. Quand je dis différentes formes d'habitat pour les personnes âgées, c'est notamment tout ce qui est habitat intergénérationnel. Alors, c'est un terme qui revient à chaque fois, mais finalement, concrètement, il y a peu d'établissements de ce type-là qui sont construits. C'est également tout ce qui est logement évolutif, tout ce qui est logement participatif avec un système de colocation et puis ce qu'on appelle l'habitat kangourou, c'est-à-dire un habitat avec différentes générations justement qui peuvent en plus s'entraider. Et je pense qu'il faut justement soutenir tout ce qui est initiative de ce genre-là portée par des associations.
Construire de l'habitat particulier entre le domicile et les maisons de retraite, ça va coûter cher. La dépendance va coûter de plus en plus cher, vous en êtes consciente. Est-ce que c'est plus d'impôts également
également locaux, plus de financement demandé aujourd'hui aux habitants de Loire-Atlantique. Europe Écologie Les Verts, vous êtes comme les socialistes et la droite, on n'augmentera pas les impôts ?
Ah oui, moi je pense qu'au niveau fiscal, il faut s'en tenir là et pas aller vers une augmentation. Je pense que la plupart des gens qui sont autour de cette
dépendance qui va coûter de plus en plus cher. D'accord.
Mais justement, au niveau de l'habitat, moi je pense que si on peut être sur des formes innovantes d'habitat, c'est aussi de l'activité économique, parce qu'on peut effectivement, en soutenant ce genre d'habitat, permettre à des entrepreneurs de pouvoir innover et de pouvoir effectivement construire ce genre d'habitat pour personnes âgées.
Gauthier Boucher pour le Front National, sur ce terrain des personnes handicapées et âgées.
Il est important que les personnes qui souffrent de handicap et nos aînés, les personnes âgées, soient accueillies, enfin puissent participer à la vie publique et puissent vivre dignement dans les établissements dignes. Et ce que l'on voit actuellement, c'est qu'il y a avec cette politique d'austérité gouvernementale, il y a le danger éventuellement non seulement que moins de maisons de retraite soient construites, mais qu'il y ait peut-être le rassemblement, la mutualisation des maisons de retraite actuellement existantes dans de plus gros ensembles qui naturellement ne sont pas de nature à faciliter la proximité entre les personnes âgées et les services en question, ce qui va les éloigner des maisons de retraite. Maintenir la PA, c'est important, et il faudrait aussi arrêter avec ce discours qui laisserait entendre que les personnes âgées n'ont ni le droit de participer à des élections en tant que candidats, n'ont ni le droit de participer aux élections en tant qu'électeurs, parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup avec les gens du Front National. Donc effectivement,
part de qui ?
J'ai vu ça dans la bouche de Monsieur Apparu, par exemple, ancien ministre UMP, mais je pense qu'on pourrait facilement trouver des exemples parmi des responsables PS.
Cette dépendance va coûter de plus en plus cher. Oui. Même question que pour les autres candidats. Plus d'impôts locaux pour financer cette dépendance ?
Non, pas plus d'impôts locaux.
On la finance comment, cette augmentation de la dépendance ?
Nous restons au même niveau de fiscalité, mais il y aurait peut-être un certain nombre de budgets, je ne vais pas dire à sabrer, mais à reconsidérer. Je pense que le département et d'ailleurs aussi la région font beaucoup dans la communication, font beaucoup dans une sorte de communication institutionnelle qui viserait peut-être à les auto-justifier dans leurs actions.
Imaginons la suppression de ces budgets de communication, ça va financer la dépendance.
Pas leur suppression, parce qu'il faut naturellement une communication à minima.
Même la diminution, ça peut financer la dépendance ?
Incomplètement, mais on n'est pas obligé de
Comment on finance alors ?
De faire de la communication à tout va, on n'est pas obligé de soutenir des actions qui sont également contre la vie, in fine, parce que...
C'est-à-dire ?
Je sais pas, mais contre la vie ou contre une certaine vision de la vie. Tout ce qui est fait par le département, même si c'est le sujet des établissements scolaires qu'on évoquait tout à l'heure, en termes de promotion de la théorie du genre, c'est un petit peu anormal. C'est pas le rôle du département ni de la région. Il y a des économies.
Il faut donner peut-être un peu une échelle quand même, parce que si on ajoute l'ensemble du budget, pas simplement les allocations c'est une partie du budget personnes âgées ou personnes en situation de handicap. On est environ à 290 millions d'euros. Le budget d'information et de citoyenneté, ce n'est pas un budget de communication du département, c'est environ 3 millions d'euros quand il était de 5 millions d'euros en 2004. Voilà, des échelles qui nous permettent un peu de relativiser les choses, parce que le budget personnes âgées, personnes handicapées, c'est le budget le plus important du département. C'est donc celui sur lequel nous devons être le plus vigilants, et c'est là que nous devons porter un effort.
Quelle proposition socialiste ?
Il faut rappeler aussi que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, c'est une compétence partagée avec l'État, que notamment la partie sanitaire, c'est-à-dire les soins sont de la responsabilité de l'État, qu'une grande partie des établissements pour personnes en situation de handicap, les ESAT par exemple, sont de la responsabilité de l'État. Nous avons, une politique qui, sur les personnes âgées, nous l'avons résumé, bien vieillir en Loire-Atlantique. C'est ça notre projet. C'est bien sûr la question du logement qu'évoquait Emmanuel Bouchot, et nous avons des propositions à formuler avec les communes sur cette question d'un parcours résidentiel pour des logements adaptés, diversifiés pour les personnes âgées. Peut-être que tous les habitants ne souhaitent pas aller dans les maisons de retraite, les EHPAD, et donc il faut leur offrir d'autres solutions. C'est ce que nous faisons. Mais il y a aussi un accompagnement, la téléassistance, par exemple, qui était au fond, au départ, un système d'alerte est devenu un système plus performant, puisqu'aujourd'hui, il détecte les chutes, il détecte la fumée, et demain, nous proposons d'apporter des services complémentaires d'assistance aux personnes âgées au travers de ce service performant. Il faut aussi accompagner les associations. Les allocations, ce n'est pas tout. Il y a une politique importante pour les associations, pour accompagner les personnes. Et il faut permettre aux personnes âgées d'accéder finalement aux loisirs, au sport, à la culture. C'est ce que nous proposons.
Pour financer ces actions, Philippe Grosvalet, on fait comment ?
Eh bien, nous l'avons fait. Déjà, la politique par la preuve. Écoutez, ça n'est pas nouveau.
C'est pas suffisant encore.
Ça n'est pas nouveau. Ouais. Il y aura un accroissement puisque la population vieillit. Mais nous l'avons déjà assumé. Par les années passées, nous avons assumé, les quatre dernières années, nous avons fait la démonstration que nous étions capables de faire des choix politiques pour subvenir à ces besoins, pour pallier à ces besoins, et donc sans augmenter les impôts. Donc nous avons considérablement augmenté ces enveloppes budgétaires pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Il faut que nous ayons des innovations, des propositions nouvelles. Nous travaillons avec le secteur associatif, par exemple, dans le domaine du handicap. Nous avons passé un contrat pluriannuel avec une très grosse association, la DAPI de Loire-Atlantique, pour justement nous porter dans le temps et anticiper sur ces évolutions.
Aymeric Saesso pour le Parti communiste sur cette question de l'accompagnement des personnes âgées et handicapées.
Bien, d'abord, je veux dire toute la crainte des personnes âgées. J'étais hier à une manifestation de retraités intersyndicales qui, d'ailleurs, au-delà du gel des pensions, du pouvoir d'achat, revendiquaient et s'inquiétaient des craintes qui pèsent sur le financement et le financement de l'autonomie des départements. Il faut investir, c'est-à-dire qu'il faut construire, là encore, pour des raisons d'emploi et de réponse aux besoins. Et puis nous sommes, finalement, c'est le cœur de métier du département, nous sommes pour un grand service public d'accompagnement des individus dès le premier âge jusqu'à l'accompagnement de la fin de vie. Nous proposons la création d'un pôle public de l'autonomie avec une structure tripartite qui serait financée à 4/5 par la Sécurité sociale et 1/5 sur le budget des départements. Nous n'y sommes pas encore, j'en conviens. Mais pourquoi ne pas mettre en place tout de suite à l'échelle du département cette structure tripartite impliquant les élus, les salariés, les acteurs du secteur et les usagers ayant droit.
Sur ce plan des personnes âgées et handicapées, Gatien Meunier pour Démocratie 44.
J'observe que nous sommes tous d'accord sur le constat. C'est aujourd'hui une politique qui est importante au niveau des responsabilités de la collectivité départementale dont nous parlons, le département. Nous disons qu'effectivement qu'il faut favoriser l'habitat intermédiaire, ça a été dit, les liens intergénérationnels. Je crois qu'on a tous le même objectif, assurer des meilleures conditions de vie et de maintien dans la société, donc des personnes âgées. Reste le financement de la dépendance, vous l'avez évoqué, car c'est aujourd'hui un constat, je ressortais les chiffres. En 2014, ce sera 7 milliards d'euros, et à l'échelle de 2040, ce sera 3 fois plus, donc ce sont des sommes considérables. Il y a des politiques qui ont été imaginées dans d'autres pays, comme la création, je dirais, d'une sorte d'assurance dépendance. Je sais que le gouvernement a eu l'occasion, le précédent gouvernement l'avait évoqué. C'est aussi une question sur laquelle on réfléchit au niveau des instances gouvernementales. Ça participera de l'équilibre budgétaire de ces objectifs. Et puis, s'agissant du handicap, aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est qu'il manque dans le département 250 places en foyer de vie. On en a construit 80 en 2012, 40 depuis. 80 avant 2012, 40 depuis. Le compte n'y est pas. C'est quasiment 100 places qu'il faudrait créer par an. Là aussi, il y aura nécessairement des économies à faire dans d'autres domaines pour pouvoir faire les arbitrages et assurer les budgets nécessaires à la réalisation de ces
places. Un seul chiffre, politique par la preuve.
Rapidement, oui.
En 2004, lorsque nous sommes devenus majoritaires au département, il y avait 2% de personnes, de travailleurs handicapés au Conseil Général sur 4500 personnes. Aujourd'hui, ce taux est de 8,53%.
Vous en employez
plus. La politique
plus.
Pour la preuve.
Emmanuel
oui,
Bouchot.
Donc on parle des personnes âgées, de l'habitat, et je pense qu'il faut aussi parler des aidants, puisque thématique des aidants pour les personnes âgées, c'est très important. Alors, il y a effectivement sur Nantes Métropole la maison des aidants, mais je pense qu'il faudrait généraliser ce genre de structure au niveau de tout le département, et surtout en termes d'information, parce que tout le monde ne s'autoproclame pas et ne s'autodéfinit pas aidant, alors que beaucoup de personnes sont dans cette situation-là.
Il nous reste, s'il vous plaît, 4 minutes seulement pour le dernier thème, donc j'aimerais qu'on l'aborde tout de suite.
Aménagement du territoire, les infrastructures de demain.
Le Conseil général a consacré 58 millions d'euros l'année dernière pour les routes départementales, mais les infrastructures, ce sont aussi les réseaux Internet, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, on va être rapide, hein. Il nous reste 3 minutes pour aborder cette question-là. Évidemment, ça ne sera pas suffisant. Donc, je vous propose un petit jeu très simple. Je vais vous demander de répondre par oui ou par non. C'est excessivement simple. Pour le budget route, je vais vous demander, est-ce qu'il faut augmenter ce budget route, oui ou non ? Est-ce qu'il faut mettre le paquet, entre guillemets, sur les routes, oui ou non ? Aymeric Cesseau.
Si c'est pour un nouveau franchissement de la Loire, oui.
Philippe Grosvalet.
Oui. Oui, mais nous avons consacré 201 millions d'euros aux investissements. Je souhaite que nous puissions retrouver des marges parce que nous avons des besoins pour des routes. Mais dans le cadre d'un schéma routier économe, celui que nous avons voté il y a encore à peine un an.
Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts.
Si c'est pour faire des quatre voies partout sur le département, non.
C'est pas le cas.
Si c'est pour faire des infrastructures liées à NDDL, Notre-Dame-des-Landes, non. Oui. Si c'est pour sécuriser, en revanche, les routes départementales existantes, oui, ah non, c'est pas fait partout.
Gauthier Boucher pour le Front National.
Oui, il est nécessaire d'avoir des...
S'il vous plaît.
Vous me dites si je vous dérange. Il est nécessaire d'augmenter ces budgets, notamment pour désenclaver les territoires les plus ruraux et les plus isolés.
Gatien Meunier pour Démocratie 44.
Oui, pour améliorer l'entretien et
l'épuisement de tous les recours.
Philippe Grosvalet.
Il faudra engager la construction de l'aéroport. Et il appartient au Premier ministre de trouver les conditions pour la réalisation de cet aéroport.
Est-ce qu'il faut
en termes de sécurité publique.
Est-ce qu'il faut évacuer.
C'est de la responsabilité du Premier ministre.
Non, alors Aymeric Cesseau nous a dit « je ne souhaite pas engager ce type d'action ». Vous dites «
c'est au Premier ministre de trouver les conditions pour... ». C'est au Premier ministre et... qu'il appartient de trouver les conditions, et j'ai écrit sur ce sujet, les conditions pour réaliser cet aéroport.
Emmanuel Bouchot pour Les Verts.
Mais tant que les recours ne sont pas épuisés, je ne vois pas pourquoi on
après,
évacuerait. Mais les recours, ils ne sont pas prêts d'être épuisés parce qu'il peut en avoir encore beaucoup.
Donc d'autres recours seront déposés alors que c'est pour ces recours-là hein, que l'accord a été fait. Mais bon, on y reviendra sûrement sur cette question. Gauthier Boucher pour le Front National.
Oui, à mon sens, il faut évacuer la ZAD. Et au-delà de ça, la question de l'aéroport Grand Ouest est à la fois, on va dire, un non-sens économique et une aberration, même sur le plan écologique.
Et puis nous terminons avec Gatien Meunier pour Démocratie 44.
Je reviendrai un petit peu sur la remarque du premier intervenant à propos des termes guerriers. Que je sache, l'évacuation, on peut considérer que c'est un terme guerrier, mais l'occupation illégale d'un territoire, c'est aussi une pratique qui n'est pas légale et que l'on peut assimiler à une occupation guerrière. Quoi qu'il en soit, pour le moment, pour nous, l'évacuation de la ZAD paraît un impératif. Nous le souhaitons, nous le demandons dans les meilleurs délais. Et j'observe qu'on a fait allusion à des recours, j'observe qu'ils ne sont pas suspensifs, qu'il y a une réelle volonté gouvernementale.
Ça va être un autre débat, ça encore, je sens, dans les semaines à venir. Merci à vous tous pour ce premier temps du débat, qui est celui du débat entre nous. Nous allons maintenant accueillir, si vous le voulez bien, les auditeurs et auditrices. Je vais vous demander de mettre votre casque, s'il vous plaît, pour pouvoir les entendre. Auditeurs et auditrices, vous nous appelez au 02 40 69 27 27.
Les dimanches 22 et 29 mars, nous sommes appelés à élire nos conseillers départementaux. Les leaders politiques de Loire-Atlantique débattent sur fidélité. Mercredi 18 mars, entre 9h et 10h30, ces responsables politiques échangeront sur leurs propositions. Vous pourrez également leur poser vos questions en direct. Faites-le dès à présent sur le répondeur des auditeurs au 09 50 788 228. Débat départemental 2015, c'est mercredi entre 9h et 10h30 sur Fidélité.
10h03 sur Fidélité, nous sommes avec nos invités politiques. Ils représentent des partis politiques ici. Philippe Grosvalet pour le Parti Socialiste, Gatien Meunier pour Démocratie 44, Gauthier Boucher pour le Front National, Aymeric Cesseau pour Parti Communiste, Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie des Verts. Ce sont aussi des candidats sur des cantons avec d'autres candidats, évidemment, pour le canton Nancy, où vous vous trouvez, Emmanuel Bouchot ainsi que Aymeric Cesseau. On note également Pascal Bolot et Christine Aurin pour le Parti Socialiste, Anne-Marie Boutet et Thierry Mallard pour le Modem, Jean de Mascoro et Marie Marchi pour le Front National, Benoît Skernidel et Roselyne Arzel pour Démocratie 44, et puis sans étiquette, Lafila Derby et François Faudra. Sur Saint-Nazaire 2, où Jean-Claude Blanchard qui était présent, je suis désolé, j'ai pas les informations pour votre canton, Lutte Ouvrière, Annie Hervaux et Eddy Le Bélier, la majorité départementale est
est représenté par Philippe Grosvalet ici, la droite et le centre par Magali Pied et Pierre-Yves Vincent, le Parti communiste et le Front de gauche Gilles Briand et Catherine Rouget, Europe Écologie Les Verts Annie Lagnon et Stéphane Piel, et pour le MoDem Jean-Michel Texier et Dominique Trigaudet.
Enfin, et Lydia Ménien.
Et Lydia Ménien, merci de rectifier également pour vous, Lydia Ménien qui vous accompagne en binôme pour le Parti Socialiste. Et puis sur la zone de la Boulay-Scoublac, Gatien Meunier est présent ici, mais il y a également sur le canton, en candidat pour le Parti Socialiste, Yannick Joubert et Evelyne Provost. Pour le Front National, Dominique Dutertre et Didier Vernet. Pour le Parti Communiste Front de Gauche, Michel Lehédé et Myriam Morino. Divers droites, Robert Belliot et Marie-Yvonne Alperne. Et pour l'UDB, Françoise Giraud et Philippe Romila. Je précise que vous êtes accompagné, Gatien Meunier, de Daniel Rival. Car vous savez que pour ces élections, nous avons un homme et une femme. C'est un binôme. 02 40 69 27 27 pour poser toutes vos questions. Une première auditrice au téléphone. Alors, c'est une candidate, visiblement, parce que j'ai donc son nom qui s'affiche sur mon écran. Sophie Van Gothem, bonjour.
Voilà, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes candidate sur Nantes. Vous souhaitiez réagir également. On vous écoute.
Je suis candidate en effet sur le canton Nantes 5 et je suis aussi chef de file d'un groupe de citoyens qui s'est monté il y a un an sur l'ensemble de la ville, puisque nous pensons que les cantons urbains et les cantons ruraux, malheureusement, ne sont pas gérés tout à fait de la même façon. Nous, on n'a pas besoin, bien sûr, des problèmes de route. On n'est pas géré de la même façon et on aimerait bien donner notre point de vue. Alors moi, je voulais simplement revenir, sans revenir sur tout ce que vous avez dit, sur cette pseudo-réforme qui est en fait juste une réorganisation pour l'instant, puisque nous n'avons pas derrière les compétences. Nous positionnons donc très très clairement sur le fait que le département qui doit rester géographiquement existant, parce que c'est historique, doit fusionner avec une autre collectivité pour faire des logiques de mutualisation. D'ailleurs, on le sent très bien lorsqu'on écoute vos intervenants partent très rapidement sur l'éducation nationale, partent rapidement sur les compétences de la région ou de la métropole. Donc c'est pas très clair non plus pour eux, c'est évident parce que tout le monde travaille ensemble. Et plutôt que de rendre confus cette image, nous on essaie de clarifier cette image. Pour tout vous dire, aujourd'hui on est dans un désintérêt extrêmement important sur ces élections. Je pense que ça y participe. On prévoit une abstention record, ce qui est pathétique au niveau citoyenneté. Et c'est vrai que de parler des petites histoires entre guillemets, entre partis politiques, on oublie derrière...
Je ne suis pas sûr qu'on ait parlé des petites histoires entre partis politiques au cours de l'heure, Madame Van Gothem.
C'est ma passion de le dire, mais honnêtement ce que vous dites... Il y en a plus de 50% qui n'écoutent pas et qui ne s'y intéressent pas. Et c'est grave.
Ah ben ça, nous sommes désolés, moyens, mais si en tout cas sur Fidélité, nous essayons de créer le débat. Hein.
Oui, bah c'est bien, 4 jours avant le premier tour, c'est au moins ça. C'est très
vaut mieux ça que rien, Madame Van Gothem.
Vous avez raison, vaut mieux ça que rien. Mais c'est un petit peu dommage. On voit bien que les médias se sont un peu désintéressés. À mon avis, c'est pas ça, parce que j'en ai parlé avec beaucoup de journalistes. Ils sont débordés par cette histoire. La deuxième chose, c'est la logique de binôme que vous avez rappelée à la fin, qui est quand même assez intéressant. Ça signifie qu'il y a autant d'hommes que de femmes et de femmes que d'hommes. C'est un peu dommage que dans votre débat, on ne soit pas dans cet équilibre. Peut-être que ça viendra. Bon, ça, c'est une chose importante. Alors nous, on est vraiment dans cette logique où on voudrait que le département soit des compétences très spécialisées et qui vont fusionner avec d'autres, et surtout qu'on arrête avec la clause de compétence générale. C'est vrai que ça fait bon ton de le dire. Nous, on n'a rien à gagner pour garder un siège au chaud, puisqu'on n'a pas de carrière par rapport à la politique. Il faut qu'aujourd'hui, on soit réaliste. On fait des dépenses en trop, on fait des cumuls en trop. On a d'ailleurs des personnes qui sont dans ce département qui cumulent leurs postes dans tous les exécutifs locaux. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et du coup, les citoyens, nos voisins, nous-mêmes, on n'y croit plus. Et donc, je voudrais savoir ce que vous pouvez faire, vous, responsable politique, pour qu'on puisse croire un petit peu plus à la politique. Et puis, j'ai une deuxième question et après, j'en resterai là. Je reviens sur, vous avez terminé par Notre-Dame-des-Landes, qui va servir encore de négociation entre les deux tours, certainement. C'est ce qui fait qu'on ne développe pas en particulier. Ça, c'est un peu dommage. Les Nantais le voient comme ça, malheureusement, en tous les cas au département et au niveau Nantes. Et j'aimerais que nous soyons très, très clairs. Je pense, entre autres, à Démocratie 44, puisque certains des candidats sont pour l'aéroport, entre guillemets, veulent continuer à fonctionner avec l'aéroport, et d'autres sont contre. Moi, sur mon canton, j'ai un candidat en face qui est contre. Donc, je voudrais que ça soit très, très clair pour les électeurs qui ne comprennent plus et qui sont quand
Merci.
Même un peu perdus.
Voilà. Merci, Madame Van Gothem, pour votre intervention. Je vous propose d'abord de réagir. Qui veut réagir à la première question? Comment, aujourd'hui, intéresser les hommes et les femmes qui vont voter dimanche prochain, les électeurs à la politique? Madame Van Gothem ne représente pas un parti, sauf le mouvement Nous Citoyens, il me semble. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir est en dehors des partis politiques?
pas le sentiment que c'était une question, mais bien plus une intervention. D'abord, peut-être dire à Madame Van Gutten que, si, comme disait ma grand-mère, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Aujourd'hui, les choses sont clairement définies entre les régions, les départements, les agglomérations et les villes. C'est le sens de cette loi. Pourquoi ? Parce que les départements ont deux fonctions principales entre des nouvelles grandes régions et des intercommunalités qui n'ont pas la taille critique nécessaire, je le dis à Emmanuel Bouchot, pour,
ah oui, mais j'étais d'accord,
pour
moi,
justement remplir les grandes fonctions de solidarité sociale. La protection de l'enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, le RSA, doivent demeurer à une échelle à la fois de proximité, mais suffisamment importante pour les traiter. C'est donc le rôle des départements, à la fois la cohésion sociale et la solidarité et l'équilibre des territoires. Madame Van Gutten dit, nous ne sommes pas intéressés par les routes. Peut-être ne sort-elle jamais de Nantes. Mais enfin, nos concitoyens circulent librement sur l'ensemble du territoire, sur des routes communales, départementales, nationales. Il nous appartient donc de trouver des cohérences, comme pour les transports publics. Donc c'est l'équilibre des territoires, et c'est d'ailleurs l'accord parfait que nous avons avec Madame Johanna Roland sur Nantes et sur Nantes Métropole, pour dire que la métropole a besoin du département, et le département, tous les territoires, y compris les territoires ruraux, ont besoin d'une métropole.
Emmanuel Bouchot.
Non, moi, je voulais rebondir par rapport aux citoyens, c'est-à-dire faire en sorte que le citoyen puisse croire à la politique et puisse même s'engager en politique. Nous, c'est vrai que Europe Écologie Les Verts, depuis les dernières régionales, on a pris comme position d'ouvrir nos listes, là, en l'occurrence, nos binômes, à des citoyens pour qu'ils puissent réellement s'engager en politique. Et je pense que c'est aussi une bonne initiative. Et tous les autres partis politiques devraient d'ailleurs s'en inspirer, parce que ça peut donner effectivement un certain crédit à la politique. Et ensuite, je crois beaucoup à la politique par la preuve, c'est-à-dire montrer effectivement ce que la politique peut faire, et notamment au niveau des collectivités.
Nous avons de nombreux appels, il va falloir être beaucoup plus court si vous le voulez. Juste une question rapide pour Gatien Meunier. Sophie Van Gutten disait à la droite, on ne sait pas s'ils sont pour ou contre Notre-Dame-des-Landes, pardon. C'est pour ou contre Notre-Dame-des-Landes à droite ?
Au sein du groupe Démocratie 44, toutes les sensibilités de la droite et du centre sont représentées. Des divers droites également, des sens étiquettes. Il y a eu un vote qui est intervenu au sein du groupe, et la majorité s'est détachée nettement pour
L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, vous avez été clair là-dessus.
Non, mais comme quoi, il y a des progrès, parce que c'est qu'une majorité, donc c'est-à-dire pas unanimité, donc ça veut dire que les esprits, au fur et à mesure, évoluent sur cette question, et c'est quand même intéressant que même à droite...
On va pas faire un débat sur Notre-Dame-des-Landes, parce que là, on en a encore pour 3 heures, je pense. J'aimerais que l'on écoute, s'il vous plaît, un message répondeur tout de suite que nous avons reçu sur le répondeur aux auditeurs, qui revient un petit peu également sur pourquoi un débat 4 jours avant, on n'entend pas parler des départementales. Écoutez cette auditrice.
Oui, bonjour, donc Martine de Nantes. Voilà, je m'interroge par rapport à ces élections où, à la date d'aujourd'hui, 17 mars, nous n'avons aucun papier, nous ne savons pas qui se présente, nous ne connaissons pas les programmes. Donc je considère qu'on se moque des électeurs et du temps qu'on doit accorder. Voilà. Donc voter oui, mais pour qui, je ne sais pas aujourd'hui. Donc ça remet beaucoup de choses en cause. Voilà, merci.
Voilà, c'est ça. Donc cette dame n'a pas reçu la propagande électorale. Je n'ai pas reçu non plus à titre personnel. Mais bon, on est à effectivement 4 jours des élections départementales. Ça pose quand même une question là aussi. De représentation, de démocratie tout simplement locale. Nous avons également Franck au téléphone. Bonjour Franck, merci d'être avec nous.
Allô, oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien,
vous
écoute.
Je fais une petite remarque déjà, je pourrais simplement dire que M. Grosvalet a été élu avec 4481 voix et M. Meunier et Gatien a eu 2563 voix aux dernières élections. Ça veut dire qu'ils ont à tous les deux moins de voix de Sophie Van Gutten, la transformante qui n'a pas été invitée,
mais écoutez, si...
qui a fait 5376
voix. Si tous les soutiens à Madame Van Gutten nous appellent, on ne va pas y arriver, je vous écoute.
Ma question est la suivante, c'est qu'on parle de binôme et je trouve ça assez hypocrite. C'est que vous avez, justement, M. Meunier a parlé de binôme en disant on présente un binôme qui est pour l'aéroport, l'autre qui est contre l'aéroport. Les socialistes, sur le 1 par exemple, proposent un binôme qui est pour la famille, mais l'autre du binôme est LGTB et pour le gender. Je dirais que c'est très hypocrite et j'aimerais voir avoir un avis à ce sujet-là.
Est-ce qu'il va y avoir consensus dans les binômes? C'est une question quand même qui est pas inintéressante. Mais je vous en prie, monsieur. Merci, Franck, d'avoir appelé. Avez-vous quelque chose à dire sur la question, Aymeric Cesso?
Non, d'une part, il y avait une réponse très simple à l'obligation de parité. C'était de créer une proportionnelle à l'échelle du département. Et peut-être que les citoyens s'y seraient mieux retrouvés sur le terrain des idées.
Bon. Citoyens, maintenant, on a les binômes. On fait comment alors? Est-ce qu'on va réussir à avoir, selon vous, oui, monsieur Boucher?
L'idéal, ce serait peut-être d'être déjà dans un parti où il y a un véritable chef et où il n'y a pas constamment des nuances entre.
Le culte du chef,
le césarisme, c'est ce qui fonde en partie notre longue histoire. Je sais que des gens comme les rois de France, Napoléon III, vous ne les aimez pas beaucoup, même De Gaulle. Vous pouvez avoir un rapport un petit peu ambigu vis-à-vis de personnages comme ça, mais chez nous, nous y sommes très attachés. Marine Le Pen, c'est notre chef incontesté. Elle imprime une ligne politique qui est parfois
même dans un canton, à l'échelle
la plus locale qui soit, il y a toujours une ligne nationale à laquelle on se réfère, qui n'est pas, Monsieur Grosvalet ne l'a pas mentionné explicitement, mais qui n'est pas une ligne xénophobe. Je vois qu'il essayait de nous déstabiliser sur la question du détachement des travailleurs tout à l'heure. Juste pour revenir 10 secondes peut-être sur l'intervention de Madame von Goethem, si la politique n'intéresse plus les citoyens actuellement, c'est peut-être qu'elle devient trop politicienne et que finalement, paradoxalement, la politique n'est plus politisée. Voilà, qu'on en revient sans arrêt à débattre, toi tu as construit tant de collèges, moi j'en ai construit tant, etc. Il n'y a pas de débat sur les enjeux de fond, on refuse de faire un débat sur les enjeux nationaux, voire internationaux par ailleurs. Que ce soit une élection cantonale ou municipale ou quoi que ce soit, ça n'empêche pas d'évoquer ces grands enjeux.
Gatien Meunier.
On n'a vraiment pas la même approche des choses et je pense que la majorité des intervenants ce matin feront le même constat que moi. Quand on est sur les marchés, qu'on a entre les mains un tract du Front National, c'est Marine Le Pen sur toutes les pages. Donc on n'est pas dans le même discours.
Marine Le Pen sur une page.
Nous sommes un débat départemental avec des projets départementaux qui sont différents peut-être d'une sensibilité à l'autre, mais notre objectif c'est de nous mettre au service de nos concitoyens.
Et il y aura un consensus dans les binômes.
Bien évidemment.
Un tract de l'UMP, il n'y a même pas le nom de l'UMP. Vous vous cachez derrière une fausse étiquette.
Écoutez, vous n'avez rien compris.
Vous avez honte de votre incohérence politique.
Nous affichons. On va rester sur le fond, si vous voulez
bien. Nous affichons notre sensibilité sur les tracts, les logos de l'UMP, les logos de l'UDI, du PCD, de tous les mouvements politiques qui nous soutiennent. Donc je n'ai pas honte d'afficher ma sensibilité.
Nous avons Anne au téléphone également. C'est vraiment priorité aux auditeurs et auditrices, si vous le voulez bien. Anne, bonjour.
Bonjour, merci de me donner la parole.
Merci d'être avec nous.
Tout de suite, moi ça fait 5 ans que je suis au chômage, j'habite une cité HLM, j'ai fait 4 années d'études après le bac. Je vois qu'on est dans une société où il y a 5 millions de chômeurs et il n'y a pas 5 millions d'emplois. Donc, mon vote, il est aussi sur un modèle de société. Alors, ce qui me rend malade, c'est de voir qu'il va y avoir un taux d'abstention énorme parce que derrière, il y a aussi beaucoup de désarroi. On a des gens qui se présentent. Moi, sur mon canton, il y a des gens qui font de la politique depuis 30 ans, que je vois dans des qui ont déjà des mandats et qui sont déjà élus sur d'autres postes. Donc, ça me pose énormément de questions. Et puis, ce qui me pose question par rapport à ces élections, c'est l'occasion, le Conseil général, le département, c'est avec les municipales des élections très locales, donc où la politique devrait être vraiment perceptible. Et c'est là où il va y avoir un taux d'abstention. Alors, j'ai pas du tout les mêmes réponses que le candidat du Front National. Hein. Moi, j'ai pas le culte du chef. Mais les questions que je me pose, moi, c'est comment ça fait que, j'ai bac plus 4, j'ai une grande expérience, ça fait 5 ans que je suis au chômage, je trouve pas de boulot. Il y a tout un pôle d'emploi.
Pardonnez-moi, Anne, vous n'y croyez plus aujourd'hui aux politiques?
Non, j'y crois plus parce que quand j'habite en cité HLM, on me dit quartier prioritaire, donc boulot, on me renvoie vers des boulots de ménage ou des choses qui sont adaptées à la représentation que des élus se font des quartiers prioritaires, puisqu'ils n'y habitent pas. Il n'y a aucun élu qui habite dans ma cité, par exemple. Donc ça pose aussi question. C'est difficile, on parle pour nous, on parle sur nous, mais on nous laisse pas tellement causer, donc c'est un peu embêtant. Mais ce que je voulais, moi, mon angle d'attaque, c'était quand même, la question, parce que j'en ai plein des questions, mais je voudrais revenir sur parce que j'y ai été.
Les visages sont graves autour de nous, si ça peut vous rassurer.
Ouais, c'est une habitude. C'est une habitude, je discute souvent avec des élus, quand je dis ça, évidemment, heureusement, ils vont pas se mettre à rire, mais moi, je parle de la vie, de la réalité, et j'y vis, quoi. Et ça fait 40 ans que j'habite ma cité, donc je vois aussi la paupérisation, je vois l'évolution. Je vois vraiment l'évolution typique, quoi, et des problèmes. problème. Mais là,
si vous croyez peu en politique, vous êtes tenté vers l'abstention ou
non, non, je vais aller voter.
On dit
parce
souvent
que...
abstention au Front National aujourd'hui.
Alors certainement pas le Front National, parce que les réponses qui sont apposées quand j'entends de mettre des caméras vidéo dans les écoles pour résoudre les problèmes de sécurité, moi je serais plutôt pour faire de l'éducation à non-violence et renforcer tout ce qui est la médiation par les pères, c'est-à-dire les enfants entre eux, avec toute une éducation à mieux communiquer, mieux se parler pour résoudre les conflits, parce que c'est certainement pas en mettant des caméras, puis après on mettra peut-être aussi la police devant les collèges. Donc enfin, pour moi, c'est pas, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes et aux adolescents à s'exprimer et à se défendre avec leurs mots et à exprimer leurs convictions en respectant les autres. Mais donc ça sera certainement pas la réponse du Front National. Par contre, je vois bien autour de moi des gens qui vont voter Front National parce qu'ils croient plus en rien d'autre, mais pour donner un grand coup de gueule parce qu'ils savent très bien que de toute façon ça aura pas de conséquences là. Donc parce que ce sont des petites élections, alors que pour moi c'est des élections très concrètes. Donc mais en fait mon angle à moi là, c'était sur la.
Si tu peux me permettre de vous demander pour qui vous votiez auparavant?
Moi, j'ai toujours voté écolo, donc vert. Mais ça, je vais voter parce que je. Mais c'est pas du tout la question de Notre-Dame-des-Landes, même si je suis contre. Mais c'est plus le choix de société, quoi.
Vous êtes sur Nantes, dans un quartier de Nantes.
Oui, oui. Mais c'est le choix de société, et je me dis, tout le monde parle de la croissance, la sainte croissance, la sainte croissance. Mais 5 millions de chômeurs, il n'y a pas 5 millions d'emplois. C'est comment on crée de l'emploi, comment on crée de l'emploi autrement, comment on fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas du tout de boulot, puis d'autres qui font 70 heures par semaine, qui étouffent et qu'on a un taux de suicide. Enfin, on voit bien que notre société va pas bien, quoi.
Merci.
Donc moi, alors je voulais parler des personnes âgées.
Ah, bah alors oui.
Je voulais parler de comment...
Parce que l'emploi, que tout ce que vous nous avez dit sur l'emploi mérite forcément une réaction. Hein.
Et, bah oui, mais
je vois qu'il y a une autre question qui nous arrive sur l'emploi des seniors aussi.
C'est pas forcément l'emploi des seniors, c'est l'emploi...
Mais là, j'ai une autre question qui arrive dessus,
créer,
c'est pour ça.
Tout ce qui peut se créer pour les personnes âgées, pour un mieux vivre, une meilleure fin de vie.
Oui.
Je connais pas de personnes âgées autour de moi, sauf exception vraiment, qui veut aller en maison de retraite. Donc, faut aussi arrêter cette hypocrisie. Par contre, je connais beaucoup de gens qui ont 70 ans, qui veulent mettre leurs parents en maison de retraite parce qu'ils n'en peuvent plus, ou parce que finalement, c'est très bien, etc. Et il y a une mine d'emplois pour maintenir les gens chez eux, pour faire un mieux vivre des personnes âgées. Et je comprends pas qu'on n'axe pas ça là-dessus. Alors, c'est pas forcément... J'ai entendu beaucoup, est-ce qu'on augmente les impôts locaux, etc. ou pas. Mais moi, j'ai envie de dire, si ça crée de l'emploi... Enfin, si on peut créer de l'emploi, on réinjecte aussi de l'argent. Enfin, j'ai pas un diplôme d'économie, hein, j'ai simplement fait la socio. Ça, c'est dit, j'ai un peu touché. Mais je comprends pas ces logiques d'argent, alors que y a 5 millions de chômeurs. Quoi.
Merci, Anne, pour ce témoignage. Il y aurait beaucoup de choses, évidemment, à dire. Qui veut réagir d'abord sur le thème de l'emploi? Aymeric Cesseau.
Mais très simplement pour dire que je crois que le désarroi de beaucoup d'électeurs, c'est le changement qui n'est pas arrivé et qu'on ne peut pas être élu sur le changement, c'est maintenant, et pratiquer la même politique économique et sociale qui échouera en France comme elle a échoué partout ailleurs. Je voulais ajouter madame, je sais bien, vous l'avez dit vous-même, abstention au Front National, on a tout essayé. Moi, j'ai pas beaucoup de rêves à vendre aujourd'hui à part les mobilisations nécessaires pour arracher la politique de gauche qu'on mérite. Mais je veux rappeler qu'à Béziers, le maire Front National a privé les chômeurs d'accueil périscolaire le matin.
C'était pas un maire Front National, hein. Vous trompez les électeurs. Robert Ménard n'est pas FN.
Rassemblement Bleu Marine et une majorité,
pour RBM.
Et une majorité Front National. Au Ponté, on enlève les pauvres de la cantine alors qu'ils avaient la cantine gratuite. Donc évidemment, les gens qui sont dans la situation de notre auditrice et qui s'apprêtent à voter Front National font peut-être une erreur. En tout cas, il faut maintenant confronter ce parti à ses bilans et pas à son seul discours.
Emmanuel Bouchaud, visiblement, c'était une électrice des Verts qui n'y croit plus même pas dans les Verts. Hein.
Ah bah c'est pas ce qu'elle a dit tout à fait.
Bon, elle parle aujourd'hui, elle ne croit plus aux politiques. Donc si elle croit plus aux politiques, j'imagine qu'elle ne croit plus non plus.
Oui, mais elle
Verts.
A dit quelque chose de très intéressant qui recoupe ce que je disais tout à l'heure, à savoir que c'est des élections locales et que ce sont des élections très importantes parce que justement la politique peut se faire au niveau des collectivités et c'est au niveau des collectivités que l'on voit le résultat de l'application des politiques publiques. Et en ça, elle a tout à fait raison. Par rapport à l'emploi, sur les personnes âgées, comme on avait un temps très court, je n'ai pas parlé de la qualification des emplois de services liés aux personnes âgées, mais ça fait effectivement partie de notre programme. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut miser sur la valorisation et la qualification de ces emplois, dont on sait qu'ils vont forcément augmenter. Qualification pour les personnes qui reçoivent ces services-là, mais qualification pour les personnes qui exercent aussi ces métiers-là, dont on sait que ce n'est pas toujours le cas, avec une flexibilité quand même assez importante, qui fait que souvent ce sont des personnes qui sont en situation difficile. Donc ça fait bien partie du programme des écologistes. Et par rapport à l'emploi, de toute façon, tout ce qui est ce qu'on appelle économie circulaire, mais économie de la réparation, économie du recyclage, économie de la transition énergétique également, on sait que dans ces secteurs-là, il y a effectivement une manne en termes de création d'emplois. Et ça, c'est quelque chose que l'on répète, mais depuis des années et des années, on voit progressivement les choses évoluer et on voit qu'en termes économiques, c'est effectivement propice à la création d'emplois.
Sur le thème de l'emploi.
Oui, d'abord, je constate que cette dame, malgré ses difficultés réelles, est encore très impliquée dans le débat politique. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos concitoyens qui aujourd'hui ont démissionné, se désintéressent totalement de la chose publique et qui sont déçus par la politique. Donc je l'invite à continuer à aller voter. Et il faut dissocier ce qui est du chômage de masse. Il y a 39 000 allocataires du RSA dans le département et de cas particuliers. Mais en règle générale, les personnes qui ont une qualification trouvent plus facilement le chemin de l'emploi. J'invite cette dame, peut-être l'a déjà faite, à se rendre dans nos unités emploi qui peuvent accompagner les personnes qui sont dans ces difficultés. Et puis elle a parlé du cumul des mandats. Moi je pense qu'il faut le redire quand même que ce sont des gouvernements de gauche depuis 20 ans qui ont limité le cumul des mandats. Moi-même, lorsque je suis devenu président du conseil général, j'ai démissionné de mon mandat de conseiller municipal à Saint-Nazaire pour me consacrer à temps plein, entièrement, à cette fonction qui est très exigeante.
Ce qui n'est pas le cas de tous les candidats à ces élections cantonales qui ont parfois d'autres étiquettes.
Il y a des lois sur le cumul des mandats. Ce sont des gouvernements de gauche qui successivement ont amélioré ces lois. Il y a des règles dans le Parti Socialiste que nous appliquons. Nous sommes les seuls à le faire.
J'aimerais juste signaler, il est 10h25, nous devions terminer l'émission à 10h30. Le directeur qui est de l'autre côté de la vitre me dit qu'on peut continuer tant que nous avons beaucoup d'appels sur le 02 40 69 27 27. Françoise devrait intervenir sur l'emploi des seniors. Et Eric, sur la loi handicap. Gatien Meunier, vous souhaitiez réagir également.
Juste aussi sur la notion de cumul des mandats. Pour ma part, je ne me suis pas représenté à mon poste d'adjoint à la mairie de la Baule pour pouvoir effectivement me consacrer, c'est le cas aussi de mon binôme, Daniel Rival, pour le consacrer pleinement à ce poste.
Sur l'emploi. Mission.
Sur l'emploi, le cas évoqué par cette personne est effectivement particulier, douloureux. Il y a au sein de nos structures des possibilités d'accompagnement. Philippe Brovallet l'a évoqué avec les services aujourd'hui d'aide à retour à l'emploi. On ne peut pas, d'un cas particulier, faire une généralité. J'observe que cette personne-là, malgré tout, n'est pas découragée, puisqu'elle envisage d'aller voter. Et c'est un message que l'on doit passer à bon nombre de nos concitoyens, car ça n'est pas en s'abstenant, ça n'est pas en choisissant des votes extrêmes que l'on résoudra les problèmes aujourd'hui devant la difficulté que rencontre une partie de notre population.
Il y avait également la question des personnes âgées. On va être obligé de passer, si vous voulez bien, à une autre question qui est celle de Françoise que nous avons au téléphone. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Nantes.
De Nantes, on vous écoute.
Oui, alors moi j'avais une question en fait pour l'ensemble des candidats. C'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui, enfin j'ai pas entendu grand chose en proposition sur l'emploi qui était vraiment concrète. Aujourd'hui en fait on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du chômage, notamment des seniors en fait. Donc des personnes aujourd'hui à 50 ans sont considérées comme des seniors qui se retrouvent à devoir prendre des petits boulots payés au SMIC pour terminer en fait et pouvoir atteindre la retraite et qui se retrouvent du coup avec une retraite très basse. Aujourd'hui, quand vous avez le SMIC, vous n'avez le droit à aucune aide, quand vous êtes par exemple une personne seule. Donc c'est très difficile pour garder un logement, tout simplement. Je voulais savoir qu'est-ce qu'en pensaient les politiques et s'ils avaient des solutions concrètes pour parer à ça.
Merci pour votre appel au 02 40 69 27 27. L'emploi des seniors, qui veut répondre à cette question ? Oui, Aymeric Cesseau,
trois mots. Parti communiste. D'abord, pour dire que ces situations, nous les connaissons. La suppléante de ma binôme, je ne sais pas si ça se dit, puisqu'on invente des termes avec cette élection. Enfin, en tout cas, la suppléante sur notre ticket est à 59 ans, est assistante commerciale et est actuellement privés d'emploi. Deuxièmement, il faut garantir la retraite à 60 ans, mais c'est un débat qui dépasse les compétences du Conseil général. Troisièmement, la conditionnalité et le contrôle des aides publiques, c'est un levier utile pour, lorsque nous accompagnons une entreprise, mettre des critères contractuels de création d'emplois et d'investissements que nous pouvons contrôler et faire rembourser. Ça se fait au Conseil régional sous l'impulsion des élus communistes. Ça a conduit
et
à quelques
remboursements.
Et écologiste, c'est un communiste qui préside la commission et ça a conduit à plusieurs remboursements d'entreprises qui ne respectaient pas leurs engagements. Il faut trouver ce type de levier-là pour favoriser l'emploi local.
Gauthier Boucher pour le Front National, cette question de l'emploi des seniors, vous avez entendu cette dame qui dit aussi quand on est au SMIC, on n'a pas le droit à des aides et on aimerait également aussi avoir du boulot pour ces seniors. Est-ce que vous avez vous-même quelques propositions sur la question?
Ben, je remarque déjà que tout est fait finalement pour en quelque sorte smicardiser les smicards et ne jamais leur donner la possibilité de s'élever. L'emploi des seniors, il faut déjà permettre à ces gens de travailler et ne plus leur dire qu'à 50 ans, qu'à 52 ans, ils ne sont plus bons à rien et qu'ils ne vont plus servir à rien dans une société où l'argent sera devenu un maître. Des propositions locales très concrètes, bah, le département doit... C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'APA, enfin ça c'est plutôt les personnes âgées
oui,
que les seniors
oui.
D'ailleurs.
L'APA c'est pour les personnes âgées.
C'est pour les personnes âgées, mais ce sont des politiques un peu identiques.
Avec l'emploi des seniors ?
Pas du tout.
Non. Des propositions pour l'emploi des seniors ? Pas foncièrement.
Très honnêtement, je ne vais pas vous donner un catalogue de propositions locales, alors que beaucoup de choses, encore une fois, se décideraient si une autre politique nationale était menée.
Un mot sur les travailleurs pauvres. Au fond, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Être au SMIC, c'est peu.
C'est pas
être,
vous,
au SMIC,
priori, hein.
Être au SMIC à temps partiel, c'est bien pire. Donc, moi, je considère que le RSA est un échec. Le RSA, qui a été mis en place par M. Sarkozy, finalement, est devenu tellement complexe qu'il a créé des difficultés pour les personnes et que ça a parfois dissuadé certains de nos concitoyens d'aller travailler. Donc, la prime d'activité telle qu'elle est proposée par le gouvernement est, me semble-t-il, une bonne mesure qui permettra justement d'améliorer le quotidien des travailleurs dits travailleurs pauvres.
Emmanuel Bouchot et ensuite Gatia Meunier. Emmanuel Bouchot pour les Verts.
Non, moi c'était par rapport aux seniors qui effectivement se retrouvent demandeurs d'emploi et qui sont un peu effectivement les oubliés parmi les demandeurs d'emploi, ça il faut quand même le reconnaître, que passer voire même 45 ans quand on est demandeur d'emploi, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais je voulais faire un lien par rapport aux personnes âgées, puisque... notamment par rapport aux aidants, puisqu'on trouve généralement des enfants qui sont aidants auprès de leurs parents. Et si on pouvait valoriser professionnellement ce qu'ils font en tant qu'aidants familiaux, aidant familial auprès de leurs parents pour leur permettre ensuite de pouvoir trouver un travail dans ce secteur-là. Et je pense que ça pourrait être une mesure assez concrète
Gatia
qui permettrait
Meunier.
À certains de trouver un emploi.
Gatia Meunier pour la droite, très rapidement s'il
pas
vous plaît.
Rapidement, je crois que les mesures que l'on prendra ne seront pas discriminatoires, elles ne sont pas liées à une catégorie de population. Les seniors aussi en recherche d'emploi pourront bénéficier de nos dispositifs, des dispositifs qu'on mettra en place à travers le fameux pack d'insertion pour l'emploi. Le RSA, Philippe Grosvalet a évoqué le fait que ça n'était pas forcément une réussite, il a le mérite d'exister et il a quand même accompagné des millions de bénéficiaires tout au long de son existence. Peut-être que le dispositif doit être amélioré, ça nous en sommes conscients.
Un autre auditeur au 02 40 69 27 27 pour ses questions et commentaires aux candidats aux élections départementales. Bernard au téléphone, bonjour Bernard.
Oui.
Vous nous appelez d'où ?
Ben, merci, je vous appelle de Bouguenay.
Très bien. Alors,
figurez-vous que j'ai deux petites remarques rapides à faire.
Oui.
La première, c'est que avec les nouveaux élus, le nombre sera de 4108, c'est-à-dire 173 de plus qu'actuellement.
Au niveau national, vous voulez dire, hein ?
Au niveau national, hein.
Oui.
Et deuxième point me concernant, c'est que moi j'ai travaillé pendant 43 ans, 6 jours par semaine, 12 heures par jour, et je me bats avec 750 €. 0,1 centime par mois, alors que les prochains élus, pour deux journées de réunion d'assemblée, ils percevront entre 1500 et 2500 € par mois. Alors, cherchez l'erreur.
Des élus trop payés, réaction, s'il vous plaît. Oui, on va entendre d'abord Gauthier Boucher pour le Front National.
Eh bien, même si nous avons été critiqués pour ça sur fond d'accusations de démagogie, le Front National a proposé très concrètement que les indemnités des élus soient baissées immédiatement de 30%. C'est un vœu que nous avions...
Et les deux maires sur 10 que vous avez se sont augmentés grassement avant de couper les budgets aux associations.
C'est inexact, mais vous mélangez les maires et vous faites vous-même de la démagogie, M. Sosso.
Les électeurs peuvent trouver les noms des maires.
Sur le site du Parti communiste.
À Ayange et au Pontet. Mais dans la presse locale.
C'est certainement...
Bon, pour le Front National, on baisse de 30%.
On baisse de 30%. C'est un vœu que nous avions d'ailleurs émis... de manière symbolique également en mai 2014 au conseil municipal de Saint-Nazaire, où l'économie était modique sur une mandature de 6 ans, c'était je crois 1,15 million d'euros, mais ça montrait l'exemple, ça montrait que les responsables publics doivent être responsables.
Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts.
Je pense que les élus passent plus de temps que de jours par semaine de réunion. Il faut voir aussi tout le travail qui peut être fait sur le terrain, les rencontres avec les acteurs, etc. Donc ça représente quand même beaucoup plus que cela. Moi, j'invite donc l'auditeur, je sais pas, à venir suivre un élu dans son quotidien par rapport au travail qu'il effectue. Après, la question de l'indemnisation, hein, c'est une indemnité, c'est pas un revenu. Je pense qu'elle doit être...
Une indemnité à 1500, c'est quand même pas mal. Hein,
oui, non, mais c'est pas par rapport à la somme que je dis ça.
C'est statutairement, statut, d'accord, voilà. On est d'accord.
Et si je dis ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est parce que moi, je milite avec d'autres à ce que les élus aient un véritable statut de l'élu. Et je le dis d'autant plus,
en tant qu'élue femme.
Parce que il se trouve que pour le vivre au quotidien, je constate que les femmes élues, c'est pas tous les jours facile. Donc un véritable statut de l'élu, je pense que ça.
Mais c'est pas ce qui vous reproche les citoyens aujourd'hui d'être des vrais politicards, des vrais professionnels de la politique.
Si vous pouvez me laisser finir, je pense qu'un véritable statut de l'élu pourrait diversifier en plus les assemblées d'élus. Parce qu'il se trouve que pour ma part, moi je viens du secteur privé. Il a fallu que j'arrête de travailler pour exercer mon mandat, avec toutes les difficultés qu'on peut trouver pour repartir après sur le marché du travail. Et donc je pense qu'un véritable statut de l'élu permettrait justement une plus grande perméabilité entre le monde politique et le monde du travail. Et moi, je milite pour que les assemblées soient plus diversifiées au niveau de la mixité, mais ça s'est fait, et au niveau de la représentativité sociale, socio-professionnelle.
Gatien Meunier et Aymeric Cesseau.
Trois points. Là, je suis tout à fait d'accord avec madame s'agissant de l'obligation d'un statut. Il y a aujourd'hui une consanguinité qui fait que l'on peut dénoncer, car on a beaucoup d'élus qui sont issus, alors je ne fais pas le procès de représentants de la fonction publique, mais qui ont toute facilité à se trouver détachés à un moment donné pour réintégrer ensuite leur statut. Alors que quand on est issu de la société civile, qui plus est une femme, mère de famille et en charge ayant par ailleurs beaucoup de contraintes, ça devient quasiment mission impossible. Ça, je milite pour ce statut. Ça n'est pas assurer une forme d'assurance pour le revenu ou autre, mais c'est pour qu'il y ait une forme d'égalité de traitement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'agissant des indemnités. Pour ce qui nous concerne, nous avons décidé, malgré l'augmentation de 3 conseillers généraux sur le département, de maintenir l'enveloppe, ce qui fera une baisse des indemnités de l'ordre de 5% pour les élus.
5% de moins.
5% de moins, mensuellement. C'est peut-être symbolique, mais il y a des symboles qui parlent. Dernier point, ça concerne effectivement l'activité. Je crois qu'il ne faut pas réduire l'activité d'un élu, quel qu'il soit, et notamment d'un élu départemental, à la simple présence en assemblée. Il y a le travail, comme ça a été rappelé, sur le terrain, les rendez-vous, la présence auprès des municipalités, les commissions, enfin j'en passe, c'est les meilleurs.
Il suffit de faire parler d'ailleurs les conjoints de ces élus en général pour évoquer ces problèmes-là.
Parler à nos épouses, oui.
Oui, enfin, et
nos époux.
Aymeric Cesseau.
Oui, d'une part, moi je suis très à l'aise pour parler de tout ça, puisque comme vous le savez, les élus communistes reversent l'intégralité de leur indemnité à leur parti, donc il n'y a pas d'enrichissement personnel avec l'activité d'élu, oui, mais ça ne professionnalise pas. Deuxièmement, sur le statut de l'élu, je crois qu'on se rejoint, alors il est temps de faire cette loi.
On a
le
culte du parti, alors, c'est pas comme au Front National.
Il n'y a aucun lien entre l'activité salariée et l'activité d'élu. Mais le statut de l'élu, c'est pour permettre de dégager par la loi du temps et des rémunérations de personnes effectivement venant du privé, des ouvriers, des employés. On ne peut pas se plaindre qu'ils ne soient pas élus et ne pas leur permettre d'exercer leur mandat.
Oui, Philippe Grosvalet.
Un mot sur le sujet, en écoutant le représentant du Front National, parce qu'il y a ceux qui font de la démagogie sur ce sujet, qui d'un côté proposent 30% de réduction et qui, par ailleurs, sont soupçonnés de fraude de taille au Parlement européen pour détournement de fonds publics. Non, je crois que sur ces sujets-là, justement,
est-ce que c'est Martin Schulz,
la démocratie a un coût, que cela doit se faire dans la transparence totale et que les démocraties modernes qui financent finalement la vie démocratique évitent aussi, on le voit dans d'autres pays, les questions de corruption. Et je pense que la démocratie a un coût et que c'est de la démagogie en permanence de dire que les élus sont trop payés, ne font rien, c'est faux. Il y a des milliers et des milliers d'élus en France qui, pour des petites indemnités, consacrent parfois plus de 12 heures par jour.
Autre appel également d'un auditeur au 02 40 69 27 27. Dépêchez-vous car il va falloir terminer cette émission, ce débat sur les élections départementales. Nous avons Eric au téléphone. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où, Eric ? Oui, je vous entends bien. Vous nous appelez d'où ?
Oui, je suis Eric, j'appelle de Nantes, de Bellevue plus précisément.
Oui.
Voilà, j'appelle concernant la mauvaise gestion de la part de la Caisse d'allocation familiale concernant le revenu de solidarité active. Voilà, exemple concret, hein. Ma mère qui a 55 ans, est dans une situation très précaire et dans un stress permanent. Elle est en détresse même, je dirais. Elle s'est vue attribuer une lettre demandant 7000 euros de trop perçus alors qu'elle a tout le justificatif pour dire que ce n'est pas vrai. Et pendant ce temps-là, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle est dans l'attente d'une réponse du Conseil Général. Et j'ai aussi ma sœur qui élève son enfant autiste, qui s'est vue, elle, par contre, supprimer le temps d'une... Vous savez, il y a des réunions annuelles, en fait, une commission, le temps de décider si elle a le droit ou pas encore à l'aide. Elle s'est vue retirer cette aide pendant 3 mois. Du coup, elle aussi dans une situation très précaire. Donc apparemment, d'après ces exemples, j'ai l'impression qu'il est plus facile pour un autiste de ne plus l'être que pour une personne de trouver du travail. Donc c'est pas normal. Et pour finir, je regrette aussi que le mouvement citoyen La Chance pour Nantes n'ait pas été convié à ce débat.
C'est le troisième. Très bien. Bah, en tout cas, vous avez eu la parole hein, pour cette deuxième partie d'émission. Merci à vous en tout cas pour cette première partie consacrée aux personnes handicapées. Philippe Grosvalet, vous voulez peut-être répondre sur le trop perçu.
Un mot pour ce monsieur. D'abord, pour dire qu'on ne peut pas évoquer un cas particulier et que chaque cas justement est particulier en ces matières, je l'invite à demander un recours gracieux. Il y a des procédures de recours gracieux juridiques avec des commissions dont font partie des membres responsables d'associations de handicap. Simplement sur la CAF, parce que là encore il y a un faux débat souvent. Je dis simplement que la CAF verse en responsabilité 250 000 allocataires dans ce département, dont 30 000 allocataires du RSA, que 100 000 contrôles sont effectués chaque année, et que seulement, même si c'est toujours trop, 642 fraudes sont révélées. Je le dis aussi par rapport à un discours qui laisse à penser que tous ceux qui bénéficient d'aide sont des personnes assistées ou des fraudeurs. Non, voilà, il y a un travail de fait, et nous contrôlons véritablement l'ensemble de ces allocations.
Aymeric Cesseau, pour le Parti communiste.
D'un mot, mais c'est les personnes attributaires du RSA vivent dans des situations difficiles. Moi, je ne peux pas non plus laisser entendre qu'il y aurait des privilèges. Je veux rappeler le chiffre, c'est 2 millions la fraude au RSA sur 8 milliards de budget, c'est 0,025%. À comparaison, la fraude aux cotisations sociales des entreprises, c'est 20 milliards. Donc on arrête de nous dire que la fraude et les abus seraient la raison des difficultés budgétaires et continuons à aider ces personnes qui sont dans une situation plutôt fragile.
Gatien Meunier pour Démocratie 44.
Je n'ai rien à rajouter quant au fait que nous sommes sur un cas particulier qui mérite effectivement d'être observé de plus près par les services à notre niveau dans ce cadre de cet entretien aujourd'hui. Il paraît difficile de porter un jugement, c'est toujours une situation dommageable, regrettable même. Et c'est vrai que ça n'est pas le seul cas. Nous avons tous souvent des échos sur le terrain de personnes qui viennent nous voir dans nos permanences pour évoquer ce genre de situation. Et nous intervenons chaque fois que c'est possible.
Merci à vous cinq d'avoir été nos invités ce matin pour évoquer des questions, on l'a vu, très pratiques, des propositions. Philippe Grosvalet pour le Parti Socialiste, Gatien Meunier pour Démocratie 44, Gauthier Boucher pour le Front National, Aymeric Cesseau pour le Parti Communiste. Merci. Et Emmanuel Bouchot pour Europe Écologie Les Verts. On s'en est pas trop mal tiré au niveau des temps chronométrés. Vous êtes à peu près égaux, hein, sauf, pardonnez-moi, pour le Front National, vous êtes à
à 5 minutes de moins que les autres candidats, mais vous aviez aussi la possibilité de parler, évidemment. C'est à peu près égaux sur 15 minutes de parole sur une antenne, ce qui n'est pas négligeable pour chacun, pour évoquer tous ces sujets pratiques. Vous retrouverez évidemment ce débat sur le site internet de Fidélité pour vous le repasser, le réécouter et faire le choix pour dimanche prochain. Les élections départementales, c'est dimanche, avec un deuxième tour le dimanche 29 mars. Il faut vous déplacer pour aller voter. Nous ferons évidemment un point sur ce qu'est le conseil départemental vendredi avec notre invité de la rédaction, le politologue Arnaud Leclerc, vendredi à 8h35, midi 10 et 19h15. Et puis, analyse également des résultats à ces élections départementales sur Fidélité, lundi avec Arnaud Leclerc, entre 8h30 et 8h50. Merci de votre attention et à très bientôt sur Fidélité.